Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, c'est vendredi. Quel bonheur. Allez, tenez bon, on est ensemble jusqu'à 9h et nous sommes le vendredi 30 janvier, bientôt la fin de ce mois de pluie, Géraldine, on y reviendra dans un instant. Alors, est-ce que vous seriez prêt à vous passer des réseaux sociaux pendant un mois? Ce week-end débute l'opération Off February. On connaissait le Dry January, et bien désormais il y a le Off February. Un mois sans les réseaux sociaux, sans Facebook, sans Instagram, sans Twitter, pour prendre conscience de notre dépendance. Dans 10 minutes, un spécialiste de la dépendance numérique sera avec nous. Il viendra nous donner des conseils pour essayer au moins de limiter notre addiction. J'ai bien besoin de ces conseils. Et vous, justement, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone? Est-ce que vous savez combien d'heures par jour vous passez sur votre téléphone? Est-ce que vous êtes accro au réseau? J'attends vos témoignages au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Ce matin, on débat aussi d'une autre addiction, celle à la drogue. Le trafic de stupéfiants est en hausse de 8% l'an dernier. Les consommateurs sont, je cite, coupables des règlements de compte. Voilà ce qu'a martelé hier Emmanuel Macron, qui veut rediaboliser la drogue. C'est l'objet du débat RMC, voix de droite, voix de gauche. Charles Consigny d'un côté et Cécile Duflot de l'autre, ça ce sera à 7h50, mais en attendant, je vous attends, vos avis, vos témoignages au standard d'RMC. Il est 7h, dans un instant le journal, mais tout de suite la météo, et il y a encore de la pluie, Géraldine.
Et je dois vous dire que la pluie va pas s'arrêter en février, hein, avec l'arrivée du février, je suis désolée. Mais oui, encore un temps très perturbé, alors surtout dans l'ouest, hein, là où il y en a vraiment pas besoin. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent, avec des rafales jusqu'à 110 km/h sur la Bretagne, notamment cet après-midi. Un peu de soleil quand même sur le pourtour méditerranéen, puis attention, risque d'avalanche élevée sur le massif central, les Alpes du Sud ou la Corse. Les températures très contrastées encore ce matin, moins 3 degrés à Nancy, mais 10 à Bordeaux. Cet après-midi, ce sera assez doux, hein, 7 à 12 degrés en général, jusqu'à 16 vers la Méditerranée. Et on gardera la douceur et la pluie pour le week-end.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h passées de 1 minute, très très bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz, bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France bascule vers plus de violence. Les chiffres de la délinquance ont été dévoilés hier. Moins de cambriolages, mais plus de violences sexuelles en 2025. La colère de Sandrine Josso contre Gérard Larcher, son silence après la condamnation de l'ancien sénateur Joël Guerriau, accusé de l'avoir drogué à son insu afin d'abuser sexuellement d'elle. Un message de fermeté ce matin de Donald Trump à l'Iran. Il espère ne pas frapper l'Iran.
La délinquance prend un tournant inquiétant en France.
Ouais, les chiffres en 2025 publiés hier par le ministère de l'Intérieur montrent une forte hausse des violences, notamment sexuelles, tandis que les cambriolages reculent. 13 indicateurs sur 18 sont en hausse par rapport à 2024. Et Constance Bostoen, le service statistique du ministère de l'Intérieur, évoque une société de plus en plus violente.
Oui, à commencer par les agressions physiques et les tentatives de meurtre. Selon les chiffres officiels, ces deux catégories enregistrent chacune une hausse de 5% sur l'année 2025. Pour vous donner une idée, il y a eu l'année dernière presque 600 agressions physiques par jour en France. Même chose du côté des violences sexuelles. Attention, si de nombreuses personnes n'osent pas pousser les portes d'un commissariat, on recense quand même 132 000 affaires ces 12 derniers mois. C'est 8% de plus qu'en 2024. En revanche, le nombre de meurtres, lui, est stable avec 982 homicides enregistrés en 2025. Il est même en baisse sur les 30 dernières années. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de cambriolages diminue. Même chose pour les vols de véhicules. Les autorités enregistrent pour cette catégorie une baisse de près de 10% sur l'année 2025, ce qui ramène leur niveau à celui observé pendant la crise sanitaire.
À Marseille, l'accès aux plages devient un enjeu électoral. Le candidat RN, Franck Alizio, propose de réserver certaines plages aux détenteurs d'un pass famille Minot senior. Pour sécuriser le littoral, sa rivale, Martine Vassal, elle, mise sur des plages privées. Deux propositions qui ne font pas l'unanimité chez les Marseillais, Anna Jojard.
Sur la plage au soleil, la plupart des Marseillais regrettent que le sujet de l'accès aux plages soit au cœur de la campagne municipale.
Je pense que les plages, c'est un endroit public qui devrait être ouvert à tous. Que ce soit payant ou interdit, ça rend pas cool pour nous.
À Marseille, il n'y a pas beaucoup de plages. Donc si on enlève encore de la place, ça va devenir compliqué.
Plus loin, emmitouflés dans leur doudoune, Nathalie et sa mère Raymond se baladent le long de la mer sur une plage dont elles ne profitent pas en été.
À Marseille, c'est quand même particulièrement bondé. Il y a du bruit, il y a du chahut, il y a la musique.
Pour autant, pas question pour elle d'interdire les jeunes sur la plage. En revanche, elle ne serait pas contre.
Des endroits privatisés où les gens peuvent être un peu plus au calme, pourquoi pas, quoi, où il n'y a pas de musique à fond, voilà.
Mais privatiser certaines plages n'est pas non plus la solution pour Nicole et son amie qui demandent de la fermeté face aux agressions.
Elle, comme moi, on s'est fait agresser ici. Il faut simplement qu'il y ait un poste de police sur chaque plage pour avoir la tranquillité.
L'été dernier, près de 300 policiers municipaux et nationaux étaient déployés spécialement pour assurer la sécurité du littoral.
RMC 7h04, la députée de Loire-Atlantique, Sandrine Josso, interpelle Gérard Larcher. Trois jours après la condamnation de l'ancien sénateur Joël Guerriot, accusé de l'avoir drogué à son insu afin d'abuser sexuellement d'elle, la députée a remis une lettre au président du Sénat et lui reproche son silence et demande également des actions concrètes, Romain Houg.
Oui, une lettre qui commence par ces mots. J'attends depuis plus de deux ans un signe de votre part. Sandrine Josso dénonce le silence de Gérard Larcher. Un silence qui l'a peiné, surprise, écrit-elle, et qui désormais l'interroge. La députée explique s'être rendue plusieurs fois au Sénat depuis l'affaire sans que jamais son président ne daigne prendre quelques minutes pour échanger avec elle. Elle dénonce également la manière dont le Sénat a tenté, selon les informations de Mediapart, de faire pression sur l'ARCOM pour empêcher la diffusion d'un reportage consacré à son agresseur. Sandrine Josso pointe également du doigt des pratiques illégales ou contraires à l'éthique pratiquée au sein même de l'institution. Elle évoque les révélations faites par Joël Guerriot lui-même lors de son procès, notamment lorsqu'il explique s'être procuré l'ecstasy qui a servi à droguer la députée auprès d'un collègue sénateur. Sandrine Josso demande enfin à Gérard Larcher de prendre des mesures pour mettre fin à ces graves dérives qui se sont, dit-elle, répétées pendant de nombreuses années.
Romain Houg, Joël Guerriot, rappelons-le, va faire appel de sa condamnation. La guerre des mots se poursuit ce matin entre Donald Trump et l'Iran. Téhéran menaçait hier de frapper les porte-avions américains en cas d'attaque des États-Unis. Le président américain dit ce matin espérer éviter une frappe contre l'Iran, tout en confirmant l'envoi d'un groupe aéronaval vers la région.
Nous avons de nombreux navires de guerre puissants qui se dirigent vers l'Iran et j'espère ne pas devoir les utiliser. Je dis aux dirigeants iraniens deux choses. Un, plus de programmes nucléaires et deux, arrêtez de tuer des manifestants. Ils les tuent par centaines. Ils vont devoir faire quelque chose.
Concernant le dossier ukrainien, Donald Trump a demandé à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes pendant une semaine, deal accepté par le président russe.
RMC 7h06, plus aucun département breton en vigilance orange ce matin.
La prudence reste de mise en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, particulièrement touché ces derniers jours. Habitants, agriculteurs, collectivités font face à des crues à répétition. Justement, Martin Lange, vous attend direct de Redon en Ille-et-Vilaine pour RMC où les précautions sont prises pour éviter que cela déborde de nouveau.
Oui Clément, car ici deux rivières se rejoignent. D'abord l'Oust qui déborde depuis une semaine, puis la Vilaine qui elle aussi monte dangereusement. Résultat d'un mois de janvier très très pluvieux. Sur les quais où je me trouve en ce moment, plus de 3,60 m d'eau. Alors ça devrait tenir hein, puisque la hauteur maximale c'est 4,10 m. Mais pour parer à toute éventualité, un mur anti-inondation a été dressé sur plus d'une centaine de mètres. Un quai qui est d'ailleurs fermé à la circulation comme plusieurs axes de la ville. Pour le moment, ainsi quelques jardins ont été inondés. Aucun sinistré n'est à déplorer à Redon, mais la Croix-Rouge est mobilisée avec 50 places d'hébergement d'urgence. Il faut dire que les inondations de l'an dernier sont dans toutes les têtes ici. 500 personnes avaient dû quitter leur logement. Alors pour le moment, la situation est sous contrôle, même si de nouvelles pluies sont attendues ce week-end.
Martin Lange en direct de Redon pour RMC. Le LOSC passera par la case barrage de la Ligue Europa après sa victoire hier 1-0 contre Fribourg. Une victoire qui met fin à une série de 5 défaites de suite. Réaction du coach lillois Bruno Genesio.
Il était important de se qualifier en gagnant et si possible en montrant un visage comme on aime voir de cette équipe, ce qu'elle l'a déjà beaucoup montré dans la première partie de saison. Maintenant, c'est pas une fin en soi, on est qualifié, tout n'est pas réglé. Et si on veut revenir dans des zones, notamment en championnat où on souhaite être, il va falloir avoir de la continuité.
L'OL termine leader de la phase de poule de la Ligue Europa et file en huitième. Les Lyonnais se sont imposés hier 4-2 contre les Grecs de Salonique. Tirage au sort de la phase éliminatoire de la Ligue Europa aujourd'hui à 13h. Avant, tirage au sort à midi de la Ligue des Champions. On saura si le PSG et Monaco s'affronteront en barrage.
C'était le journal de Clément Guidi, les 7h08 sur RMC. Un mois sans Instagram, sans Facebook, sans Twitter. Est-ce que vous seriez prêt à lâcher votre téléphone et à relever le défi? Ça s'appelle le Off February et ça commence ce dimanche 1er février. Bonjour Charlie Ed.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Arrête de scroller pour de bon. Dans un instant, vos conseils pour apprendre à se couper des réseaux ou au moins à les limiter, parce que oui, vous le dites, c'est possible. C'est votre parti pris. Dans un instant, j'ai presque envie de vous dire bonjour docteur. Aidez-nous docteur. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire si oui ou non vous passez trop de temps sur votre téléphone, si vous vous sentez comme dépendant en effet des réseaux sociaux. Appelez-nous au 3216 ou vos messages sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Un nouveau défi. Un nouveau défi et qui me semble honnêtement assez fructueux. Parce qu'après le mois de janvier sans alcool, c'est la première édition cette année du mois de février sans les réseaux. Ça s'appelle le Off February. L'objectif, c'est de se défaire de l'emprise des réseaux sociaux, de l'emprise numérique et de reprendre le contrôle de nos vies. Charlie Ed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mentaliste et vous êtes créateur de contenu sur Internet précisément, mais avec des limites. Parce que vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage « Arrête de scroller ». Pour de bon, c'est aux éditions Albin Michel. Votre parti pris ce matin, c'est qu'on peut apprendre à limiter, voire même à se détacher des réseaux sociaux. On fait comment, docteur?
Déjà, on commence à constater qu'on a un problème avec son téléphone. Moi, le livre, il part de là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, j'ai vu que j'avais à peu près 8 heures de temps d'écran par jour. Ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas si rare en vrai. Et à l'échelle de ma vie, j'ai fait un calcul très simple. Je me suis rendu compte que je passerais plus de 20 ans sur mon téléphone. Donc, ça m'a fait flipper. Et de là, j'ai tout testé pour arrêter de scroller. J'ai trouvé des choses qui ont marché sur moi, sur mes proches. Donc, après, j'en ai fait un livre. Et il y a plein de techniques. Mais la première chose, c'est de conscientiser un petit peu le temps qu'on passe.
La première chose, c'est de réaliser. Alors, je disais à l'instant que moi, j'en étais à regarder parfois par un réflexe absurde mon appli EDF pour voir combien j'avais consommé la veille. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, une sorte de dépendance à la nouveauté.
Et de
à la notification.
De l'ennui aussi, c'est ça. Parce que notre cerveau, il a besoin de s'ennuyer, mais on n'aime pas s'ennuyer. Et le téléphone, c'est un super outil pour combler ça.
Donc, un, on s'en rend compte, on regarde effectivement tout simplement le nombre d'heures qu'on a passées sur les réseaux, sur les applications. Une fois qu'on a constaté qu'en effet, on était totalement dépendant, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a deux choses, je pense, le principal. La première, c'est ce qu'on appelle ajouter de la friction. Donc, c'est ajouter des étapes à l'utilisation du téléphone. Parce que ça a un coût, en fait, d'aller sur son téléphone, mais c'est assez simple d'y aller. C'est-à-dire qu'on va juste prendre notre téléphone dans notre poche, on l'ouvre, on a même besoin de taper de code, et on arrive directement sur Instagram. Alors que si on ajoute des étapes, par exemple, on le met dans son sac à dos, on le met jamais dans sa chambre, on essaie de ne pas le mettre dans sa poche, on l'a pas peut-être quand on est avec des amis. En tout cas, moi, j'ai plein de petites étapes que je mets en plus pour aller sur mon téléphone. On peut le mettre en noir et blanc aussi. Et en fait, tout ça, ça va rajouter ce qu'on appelle un coût cognitif. Donc, un peu plus
de. Le mettre en noir et blanc?
Ouais,
qu'il soit moins attractif en fait, qu'il soit moins ludique.
Bien sûr, parce que les applications, elles sont designées pour nous donner envie d'y aller. Les couleurs, elles sont pas choisies par hasard. Les notifications, c'est en rouge. Ça nous donne vraiment envie d'aller voir. C'est important. C'est une couleur qui a beaucoup d'impact sur notre cerveau. Et donc le noir et blanc, ça vient un petit peu court-circuiter ça. Et c'est plein de petites techniques comme ça. Et la friction, c'est intéressant.
Est-ce qu'il faut aussi aller jusqu'à carrément tout couper, comme le propose ce Off February, ou est-ce que au fond c'est excessif?
Moi, dans mon livre, je propose une méthode d'arrêter pendant 48 heures d'être sur son téléphone. C'est un week-end, parce que c'est faisable. En fait, on part un vendredi soir, on vient un dimanche soir. Et pour ceux qui travaillent dessus, pour ceux qui en ont besoin, c'est pas infaisable. Le week-end, on n'a pas tant d'appels, etc. Et ça permet déjà de commencer à apprendre de nouvelles choses. En vrai, au quotidien, on réapprend à s'ennuyer. On réapprend à faire d'autres choses qu'on faisait peut-être avant.
À accepter des moments aussi de vide.
Ouais, c'est important parce que c'est pendant ces moments-là que notre cerveau, il restructure un petit peu ce qu'il a vécu, on améliore un petit peu nos souvenirs, on va réussir aussi à être plus motivé, à trouver une nouvelle passion.
Je voudrais accueillir Carole qui nous appelle de Vic-le-Comte dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Carole.
Bonjour, bonjour à tous.
Carole, vous êtes retraitée, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux sauf WhatsApp.
Oui, c'est ça.
Et est-ce que vous estimez qu'effectivement, c'est important de garder quand même un lien, mais pas trop?
Oui, quand même, parce que on s'aperçoit que si on n'est pas un petit peu sur les réseaux, on est un peu coupé du monde.
Mmh. C'est votre lien.
Voilà, il y a plus de, c'est ça. Alors moi, j'ai un lien avec des collègues, un petit groupe avec la famille. Alors c'est vrai que ça sert pour échanger un petit peu, mais à la sortie de ça, si on n'a pas ça, il y a plus de contact.
Oui, donc il faut. Et c'est devenu. Ça, c'est dommage. C'est-à-dire que les gens ne vous appellent plus au téléphone, par exemple.
Non.
C'est ça.
Non.
Désormais, il n'y a plus, parce qu'il y avait autre chose avant les réseaux, on se donnait des nouvelles les uns les autres tout de même.
Eh ben voilà, c'est ça, oui. Mais et puis tous mes collègues qui sont sur Facebook ou sur Instagram, TikTok, alors le matin au café, on se parle et tout, mais comme moi j'y étais pas, je leur disais « Ah mais raconte, je suis pas au courant ».
Ah oui.
Mais
oui.
On pense pas à vous appeler en disant alors t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout se passe voilà, je pense
on ne se dit plus forcément les choses, non. Carole. Mathieu, non. De nombreux messages. Et vous-même, Mathieu, d'ailleurs, tiens, votre consommation.
Je viens de faire un truc, je vous ai entendu, j'ai été regarder ma conso, je suis sur une moyenne, j'ai montré à Arthur Chevalier, 6h30 par jour en moyenne.
Ah oui, alors que vous nous disiez quand même, Mathieu, que
moi, justement... Mais assez peu, mais quand même pas mal pour le boulot aussi. Mais les réseaux, assez peu depuis peu, hein. Sinon, très accro comme tout le monde, hein. Mais depuis peu, et en fait, ça fait du bien, on en a pas, on vit très bien ça, on s'en rend même pas compte.
Faire le test de 48 heures. Arthur, j'ose pas vous poser la question.
Moi, je suis pas du tout réseau. Sociaux.
Pas du tout réseaux sociaux.
Mais vraiment, ça m'a toujours un peu ennuyé.
Mais il écrit des livres, Arthur. Et c'est
oui,
ça qui est beau.
Pas tous les jours.
Il écrit
mais...
et il lit des livres.
Il écrit des livres tous les jours.
Comment faire aussi quand, comme le dit Carole, tout se passe désormais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Carole, elle dit voilà, moi, si je ne regarde pas de fait Facebook, etc., donc je n'ai plus de nouvelles de mes amis.
Ouais, c'est un très bon sujet parce que je pense que le but, c'est pas de jeter son téléphone par la fenêtre et de plus l'utiliser. C'est un très bon outil. C'est aussi, moi, en vrai, comme ça que je fais des spectacles, que je monte sur scène, que les gens me suivent, en vrai. Donc c'est trop bien. Mais il y a aussi un côté forcément négatif. On le connaît. Et j'ai une phrase que j'aime bien, c'est le téléphone, c'est un très bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Et je pense qu'il faut le laisser à la place de serviteur. Et donc, pour ça, il faut réussir à restructurer son utilisation. Donc, ça passe par changer ses habitudes, ça passe par pourquoi pas même restructurer vraiment l'intérieur de son téléphone, supprimer les apps dont on n'a pas besoin, mais garder les contacts avec les gens aussi, parce que c'est un truc intéressant.
En fait, nettoyer en quelque sorte son téléphone, est-ce qu'il faut aussi supprimer les notifications?
Alors moi je suis team supprimer 100% des notifications parce que si les gens ont quelque chose de vraiment important à vous dire, ils vous appelleront. Et si vous avez envie de regarder WhatsApp pour voir ce qui se passe, vous irez naturellement.
Y compris pour les textos ?
Moi je supprime tout. Et les gens le savent et en fait ça me rend même plus fiable parce que du coup je vais checker à deux horaires précis dans ma journée les textos sur WhatsApp, mes mails, etc. Et en fait je réponds à tout le monde.
C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée, c'est un peu comme à l'ancienne quand il y avait une heure où on faisait son courrier.
Sa correspondance.
Voilà, on faisait sa correspondance par jour. Au fond, vous êtes revenu à ce genre de pratique. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la journée où vous regardez, là vous gérez. Moi par exemple, je suis complètement débordée, je reçois des textos à n'importe quelle heure, du coup je n'y réponds jamais parce que je me dis j'y répondrai plus tard, mais je n'y arrive jamais.
En fait, je pense qu'on confond le fait d'être instantané avec le fait d'être fiable. C'est-à-dire que moi, on sait que je vais pas répondre dans la minute. Par contre, on sait que je vais répondre toujours dans la journée, que je louperai pas un message, que je louperai pas un mail. Alors qu'à l'inverse, quand on répond dans l'instantané, si on loupe le message et qu'il descend dans la...
Moi, je suis ni instantané, après, ni fiable.
Et donc, on loupe des messages, on a tellement, etc. Donc, on n'est pas obligé de répondre directement aux gens et c'est OK.
Et c'est OK parce que vous savez que vous le ferez à un moment.
Ouais, complètement.
Du coup, votre tête est assez apaisée.
Bah, du coup, en tout cas, j'essaye d'être de
moins en moins. Vous n'avez même plus besoin de faire de to-do list.
Si, par contre, j'adore les to-do list. Le cerveau adore ça aussi. C'est génial de cocher des choses. C'est hyper satisfaisant.
En fait, ce qui est génial, c'est de les exaucer, ces to-do list. Ah, ça, je vois la passion et l'exaltation presque dans votre regard. Donc, merci infiniment, en tout cas, de nous avoir alertés ce matin. Vous n'hésitez pas, comme Carole, à nous appeler pour témoigner aussi de votre situation. Et est-ce que, oui ou non, on tiendra ce off février, donc l'objectif de se défaire de l'emprise des réseaux. Charlie Head, donc mentaliste, et je cite votre livre, Arrête de scroller pour de bon, c'est aux éditions Albin Michel, je cours l'acheter. Il est 7h20 sur RMC, vous l'avez entendu, Arthur Chevalier est dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur.
Sometimes it's too slow.
For sure. Le président de la République qui cartonne sur les réseaux sociaux avec des remixes de son expression for sure.
Mais oui, Emmanuel Macron parle plutôt un bon anglais avec un léger accent, mais nos présidents sont beaucoup moins à l'aise avec les langues étrangères que ne l'étaient nos rois. De ce point de vue, on régresse.
Oh, j'ai hâte de vous entendre. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et on remonte le temps comme chaque jour avec vous, Arthur Chevalier. Arthur, on le disait, l'Américain, écoutez.
Kalashit Nunat, Tuniniagan Nilak, Tigunakan Narsina Nanilu, Kalashit Naminok, Siuni Sartik, Alayi Suat.
Parce qu'on l'avait, entendu effectivement en anglais à l'instant. Là, c'est le même, mais en danois et en groenlandais. Emmanuel Macron devant la première ministre danoise cette semaine. Et mais il enflamme surtout les réseaux sociaux pour son for sure.
Et oui, comme quoi, c'est pas la peine de faire de longs discours à Pauline. Hein. Il suffit d'une expression bien placée pour marquer les esprits. Si le for sure d'Emmanuel Macron fait autant de bruit, c'est aussi parce qu'il l'a prononcé avec un accent français, puisque c'est bien connu. Les présidents français parlent plutôt mal les langues étrangères.
Moi, j'ai l'impression qu'on ne progresse pas beaucoup, finalement.
Alors, vous ne croyez pas si bien dire. En réalité, on régresse. On régresse, et ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde entier, puisqu'il y a bien longtemps, nos chefs d'État parlaient beaucoup, beaucoup plus de langues étrangères que ceux d'aujourd'hui. Prenez la célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre, qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, elle parlait 12 langues, wow. Parmi lesquelles le grec, l'égyptien, le latin, l'hébreu et même des langues disparues aujourd'hui, comme l'araméen, qui était la langue de Jésus-Christ.
Et en France, est-ce que nos rois parlaient plusieurs langues ?
Alors, ça dépend lesquelles, mais globalement, oui, hein, beaucoup. En tout cas, beaucoup plus que nos hommes politiques d'aujourd'hui. Dans l'éducation d'un roi de France, les langues étrangères, c'était essentiel et ça remonte à très loin. Prenez François Ier, roi de France au XVIe siècle, et bien il parlait églisé couramment l'espagnol, l'italien et bien sûr le latin.
Et le français était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui aussi.
Mais oui, à cette époque, le français c'était la langue des élites en Europe et en Russie. C'était d'ailleurs quasiment la langue officielle de la diplomatie. Tous les traités étaient écrits en français. En fait, à l'époque, c'était un peu l'anglais d'aujourd'hui.
Est-ce que Napoléon parlait plusieurs langues ?
Alors, Napoléon parlait beaucoup de langues, mais aucune correctement. Hein, ah. C'est assez spécifique, même pas le français. Il faisait des fautes d'orthographe partout, y compris à l'oral d'ailleurs. Il parlait corse, c'est sa langue maternelle, italien. Il avait appris l'allemand à l'école qu'il lisait. Et à la toute fin de sa vie, il s'est même mis à apprendre l'anglais, qu'il a fini par lire dans le texte, ce qui fait pas mal.
Plus récemment, est-ce que le général de Gaulle parlait des langues étrangères ?
Oui, alors de Gaulle avait un très bon anglais, hein, il avait passé la guerre à Londres, mais il avait aussi un excellent allemand, à tel point qu'en 1962, à Bonn, en Allemagne, de Gaulle prononce un discours intégralement en allemand, sans la moindre note. Mais globalement, il faut bien admettre que les rois parlent...
C'est de Gaulle en
allemand.
Incroyable. Noch stärker als zuvor.
Incroyable.
C'est un peu inquiétant aussi.
Oui, c'est vrai que c'est...
Mais globalement, les rois parlent quand même plus de langues étrangères que les présidents, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Prenez la reine d'Angleterre, elle parlait un français quasiment parfait. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, parle le français, l'espagnol, l'italien et le portugais.
For sure.
For sure.
For sure. For sure. On dirait presque du chinois, je trouve, honnêtement. For sure, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, il est 7h25.
RMC. Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud, dans le Bonjour. Face-à-face, tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le candidat de la gauche à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire.
Mais non.
Bah si.
Emmanuel Grégoire,
bah ouais.
Le vrai,
bah ouais, c'est
on
vrai.
A le vrai chez nous. Waouh, celui qui est donné en tête au premier tour devant Rachida Dati selon un sondage. Celui-là. Yes.
En même temps, c'est le candidat de l'Union de la gauche, donc c'est normal, il mobilise, il rassemble. Emmanuel Grégoire, vous savez, c'est toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent.
Oui, non, c'était lui en fait la chanson à la base.
Bienvenue sur RMC Gold, on était avec Grégoire. Emmanuel Grégoire trouve qu'il n'est pas assez présent dans les médias, en tout cas moins que Rachida Dati. Ben pas ce matin, déjà, nous on le reçoit bien.
Voilà.
Mais c'est vrai que sur d'autres chaînes, ils l'ont mal reçu. Emmanuel Grégoire, bonjour. Bonjour Monsieur Pujadas, merci de m'avoir... Je vous interromps, Emmanuel Grégoire, priorité au direct, Rachida Dati vient d'arriver dans un marché du 15e arrondissement pour y rencontrer ses électeurs. Oui mais moi aussi je vais sur les marchés en fait. Non, cessez d'interrompre les gens tout le temps, Monsieur Grimoire. Grégoire, alors mon programme pour Paris, c'est... Attention, priorité au direct. On nous dit que Rachida Dati discute avec un fromager. Mais merde, moi aussi j'aime le fromage. Je peux parler, oui. Faut qu'il y mette un peu du sien aussi. Ah oui. Rachida Dati, elle s'est mise en scène en train de ramasser les poubelles. Bah, faut que lui, il aille ramasser des seringues à la colline du crack ou faire ce truc génial pour les réseaux.
la pêche à l'aimant au canal Saint-Martin. Vous savez, ouais, ils mettent un aimant géant dans la côte et ils sortent 137 vélib d'un coup. Ça, ça buzzerait sur Internet. Alors, Rachida Dati veut végétaliser les rues et construire des HLM. Est-ce que ça fait pas un peu trop de candidats de gauche à Paris, tout ça? Donc, on le disait, il est un peu devant Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, mais ça pourrait changer parce que cette semaine, il y a eu un coup dur. Là, c'est la tuile. Anne Hidalgo lui a apporté son soutien. C'est dommage, c'est le baiser de la mort, c'est con, ça partait bien. Bon, après, ça peut ne pas lui nuire, on le savait déjà que c'était son premier adjoint. Donc, et pour l'instant, il est en tête. Donc si ça se trouve, peut-être que les Parisiens, voilà, l'aiment bien quand même, Hidalgo. En tout cas, ils sont habitués. En tout cas, c'est peut-être le syndrome de Stockholm. Ou alors, ils sont masochistes. Peut-être que la nuit, les Parisiens, ils vont dans des donjons tenus par la municipalité pour se faire fouetter. Oh oui, parle-moi mal, traite-moi comme le ferait un serveur parisien. Dis-moi des choses sales comme les rues de Barbès. Défonce-moi comme les rues pleines de pelleteuses du 17e arrondissement. Ça va être chaud à 8h30 avec Emmanuel Grégoire. Tout à l'heure.
Merci Arnaud Demange, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20. Il est 7h27 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal. 7h30, toujours de la pluie, Géraldine.
Et surtout dans l'ouest, là où vraiment on n'en a pas besoin. Mais effectivement, il va encore beaucoup pleuvoir. La pluie qui arrive par la Bretagne et les Pays de la Loire ce matin. Et c'est une large moitié ouest qui sera concernée. Donc avec des pluies parfois soutenues, avec beaucoup de vent. On arrive jusqu'à 110 km/h sur les côtes bretonnes. Un peu de soleil quand même sur le pourtour méditerranéen. Puis des températures très contrastées ce matin. On a encore moins 3 degrés quand même à Nancy. Cet après-midi, il fera souvent 7 à 12 degrés, jusqu'à 16 vers la Méditerranée. C'est assez doux, ce sera encore assez doux ce week-end, mais ce sera toujours pluvieux.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Dénoncer celles et ceux qui se droguent à leurs employeurs. Mesure annoncée par le procureur de Toulon pour assécher le trafic. La mesure fait déjà polémique. Les jeunes peinent à trouver du travail. Le taux de chômage des moins de 25 ans a bondi l'an dernier. Et puis on ira à l'Open d'Australie suivre la première demi-finale entre Zverev et Alcaraz.
C'est une sorte de panorama de la délinquance que le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler.
Et les chiffres sont contrastés avec plus de violences physiques et sexuelles, mais moins de cambriolages en 2025. Le trafic de drogue, lui aussi, est en hausse, plus 8% du nombre de mises en cause. Les consommateurs verbalisés ont aussi été plus nombreux, plus 6% en un an des consommateurs que le procureur de Toulon compte désormais dénoncer à leurs employeurs. Il l'a annoncé en début de semaine. Ça ne concernera que les policiers, les conducteurs de bus ou encore les soignants de son département, le Var, qui ne sont pas tous vraiment rassurés par une telle mesure, Alfred Orange.
Oui, parce que ces signalements peuvent s'apparenter à une intrusion dans la vie des salariés, surtout si la consommation de drogue intervient en dehors des jours travaillés, s'insurge Malika Bellarbi, membre de la direction confédérale nationale de la CGT Santé.
Informer l'employeur, moi je trouve que c'est inadmissible. Si la personne consomme sa drogue en dehors de la sphère du travail qui met pas en danger les patients, ça les regarde pas.
Mais la lutte contre les stupéfiants est une lutte de tous les instants, répond Adil Saïdi, délégué syndical de l'UNSA Transport à Toulon, directement concerné par cette mesure.
Si le fait de prévenir l'employeur permet d'éviter des accidents et de prévenir des drames, alors cela peut être une mesure utile et responsable.
Et c'est exactement l'objectif poursuivi par le procureur de la République de Toulon, Raphaël Balance.
Moi, je ne sais pas comment un employeur pourra dire qu'il ne peut rien faire s'il sait que son chauffeur de bus scolaire a été pris le week-end en train de consommer des stupéfiants et qu'il ne fait rien pour vérifier qu'il n'ait pas consommé des stupéfiants aussi le lundi, le mardi, le mercredi. Ce sera sa responsabilité.
Pour autant, aucune consigne ne sera donnée à l'employeur qui pourra décider librement des suites à donner à ces signalements.
Il y a aussi le chômage qui a augmenté en 2025 de 6,8% selon le ministère du Travail. Chiffre gonflé par l'inscription automatique depuis l'an dernier chez France Travail des allocataires du RSA. Toujours est-il que le chômage aurait quand même augmenté sans cette mesure et il touche particulièrement les jeunes, plus 23,6% de demandeurs d'emploi chez les moins de 25 ans l'an dernier. Pour certains d'entre eux, c'est un vrai parcours du combattant, Lou Garnier.
Cela fait 5 mois que Pauline est au chômage. Elle a fait 8 ans d'études, dont 2 ans en alternance. Mais depuis septembre, rien.
Il n'y a pas beaucoup d'offres. On reçoit jamais de réponse ou très peu. Et quand on a une réponse, souvent c'est négatif. J'ai replongé dans une dépression à cause du chômage.
Elle s'accroche, elle a d'ailleurs un entretien d'embauche aujourd'hui, mais la situation est difficile.
Je vis des aides de Pôle emploi et avec l'argent que j'ai mis de côté pendant mon alternance, c'est compliqué, il faudrait pas que ça s'éternise.
Depuis septembre, sur 15 candidatures déposées pour des postes dans des maisons d'édition, Manon n'a obtenu qu'un entretien qui s'est soldé par un échec et elle n'est pas la seule.
Dans tous les secteurs, enfin, j'ai un ami qui est consultant qui ne trouve pas de travail non plus. Quoi. C'est assez général que tout le monde a vraiment du mal à s'insérer, à trouver ne serait-ce qu'un CDI.
Une explosion du nombre de jeunes chômeurs qui n'a rien d'étonnant vu le contexte économique pour Vincent Beau. Il dirige un cabinet spécialisé dans la qualité de vie au travail.
Quand vous avez un rétrécissement de l'économie, eh ben, on cherche plus à alléger la masse salariale qu'à la faire grandir. Donc ben, il y a une fermeture du marché de l'emploi. C'est les jeunes qui trinquent en premier.
Actuellement, si elles ont les moyens de recruter, les entreprises vont préférer embaucher des profils plus expérimentés, selon lui.
Les chiffres de la croissance ce matin, elle a augmenté de 0,2% au quatrième trimestre et de 0,9% sur l'année 2025. On en parle dans la matinale avec Manu Le Chypre. La France Insoumise lance officiellement sa campagne pour les municipales à Paris. Derrière sa candidate Sophia Chikirou qui réunit ses troupes pour son premier meeting ce soir. Jean-Luc Mélenchon, lui, ira soutenir demain le candidat insoumis à Roubaix dans le Nord. Le mouvement qui n'a jamais eu autant de têtes de liste aux municipales, il faut dire qu'ils sont quasi inexistants dans les villes, Cyprien Pézeril.
Roubaix, Saint-Denis, La Courneuve, Vénissieux, ce sont surtout des villes moyennes dans les grandes agglomérations où la France Insoumise espère planter son drapeau en mars prochain. Des dizaines de réunions publiques s'y tiennent chaque semaine et de Jean-Luc Mélenchon à Manuel Bompard, les figures du mouvement font le tour de France pour apporter leur soutien. Près d'une vingtaine de députés LFI sont d'ailleurs eux-mêmes candidats. Mais les ambitions restent mesurées. Les municipales, ce n'est pas notre fort, reconnaît un proche du leader insoumis. À ce jour, seules trois villes sont dirigées par des maires LFI. L'objectif, c'est surtout d'obtenir des conseillers municipaux confiés à un cadre. Ils faciliteront notamment le recueil des 500 parrainages pour la présidentielle, le nerf de la guerre pour les mélenchonistes. En clair, décrit un insoumis, les municipales ne sont qu'une étape sur le chemin pour 2027.
Cyprien Pézeril, service politique d'RMC. Donald Trump espère ne pas devoir utiliser la force et ne pas frapper l'Iran. Déclaration du président américain hier soir devant la presse, alors que la pression n'a fait que s'intensifier ces derniers jours en vue d'une possible intervention militaire américaine. Il est 7h36 sur RMC, on part à l'Open d'Australie où c'est l'heure des demi-finales. La première a commencé entre l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Allemand Alexander Zverev. Match que vous suivez pour RMC, Eric Salio, vous êtes en direct de Melbourne et c'est bien parti pour Alcaraz.
Oui, Alcaraz mène 2-0, 6-4, 7-6, mais la situation commence à se tendre pour l'Espagnol. Pourquoi ? Parce qu'il est attaqué par les crampes depuis une dizaine de minutes. Un confrère espagnol m'a même confié qu'il a vomi et qu'il s'en est confié à son équipe. Donc c'est très tendu dans la troisième manche. 5 jeux partout. Alcaraz qui joue vraiment sur une jambe et qui va tenter d'éviter une prolongation. S'il perd le troisième set, ça va devenir très compliqué pour Carlos Alcaraz. Donc 6-4, 7-6, 5 partout, ça va se jouer dans les minutes qui viennent ce match.
Eric Salio en direct de Melbourne en Australie pour RMC. L'Olympique Lyonnais premier de la phase de groupe de la Ligue Europa, victorieux contre les Grecs de Salonique 4-2 hier soir, ça passe de justesse pour Lille, direction les barrages après sa victoire 1-0 contre Fribourg. On connaîtra à 13h le tirage des barrages de la Ligue Europa et à midi celui de la Ligue des Champions.
Et puis ce soir ce sera le Quintet à Deauville à 20h15.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 3 Tortis Amber. L'outsider c'est le numéro 9 Fire Rebelle, le 3 et le 9.
C'était le journal de Clara Gabillet. 7h37, vous êtes nombreux à nous appeler pour nous raconter soit votre dépendance aux réseaux sociaux, soit votre capacité à les mettre à distance. Bonjour Alexis.
Bien le bonjour.
Eh bien le bonjour Alexis, vous êtes cheminot dans le Nord, à Gravelines. Vous les utilisez, vous, les réseaux sociaux ?
Alors, moi, je les utilise beaucoup, comme je disais tout à l'heure.
Vous avez appelé notre standard.
À la maison, il n'y a pas la télé en direct.
Voilà, d'accord.
On a arrêté ça depuis des années, on ne regardait pas. Okay. Donc, pour avoir les informations, ouais, il n'y a que les réseaux. Et vous à la radio. Parce qu'avant, on regardait en replay, mais qu'est-ce que c'était anxiogène avec les enfants ? On voyait des morts, des catastrophes et des guerres. Non. Parce qu'on met des Peggy 12, 13, 14 sur des films, mais par contre, aux informations, où on voit des morts et des machins, là, il n'y a pas de Peggy 12, il n'y a pas de Peggy 18, quoi. Donc, la seule façon dont je peux avoir l'information, c'est vous à la radio,
ouais,
et sur les réseaux. Donc, si je me coupe des réseaux, bah, je me coupe de l'information.
Donc, en fait, pour vous, les réseaux, c'est devenu une sorte de moyen d'avoir des informations directes sans avoir à les partager au milieu du salon avec, effectivement, les enfants. Bon, vous auriez pu aussi décider de lire le journal et d'écouter la radio.
Mais... Alors, j'écoute la radio, là, comme je fais tous
voilà,
les matins.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Très bon réflexe, Alexis.
Mais non, le papier, je vais pas prendre le temps de le lire, d'aller le chercher en kiosque, que ça. Donc là, je scrolle sur les réseaux, j'ai mes sites.
Et vous pensez le faire favoris. À peu près combien d'heures ou combien de temps par jour?
Au moins 2 heures.
Au moins 2 heures. En fin de journée, plutôt, donc.
Dans la pause de midi, comme tous les hommes quand je vais aux toilettes ou après le travail.
Il y a un sujet hein, sur les hommes aux toilettes. Hein. En effet, je vais pas ouvrir ce sujet ce matin, mais Alexis, je pense qu'on pourrait écrire une thèse sur cette question-là. Merci beaucoup en tout cas Alexis d'être passé par le 32-16. Bonne journée à vous Alexis, donc cheminot dans le Nord, il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Une entreprise française stratégique qui a été vendue un peu en catimini aux Américains avec l'accord du gouvernement. Ça fait hurler les oppositions et honnêtement, ça pose question. Bonjour Renaud Bellet.
Bonjour Apolline.
Vous êtes spécialiste des questions de défense. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la vente de ce fleuron? Pas forcément, c'est ce que vous nous dites dans un instant, mais il faudra des garde-fous et vous nous l'expliquerez. Il est 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. On nous parle toute la journée de souveraineté. Et pourtant, pendant ce temps-là, un sous-traitant de l'industrie militaire passe sous pavillon américain. C'est l'entreprise LMB qui est aujourd'hui installée en Corrèze, qui produit des refroidisseurs, concrètement des systèmes de ventilation pour nos rafales, pour nos sous-marins, notamment un composant indispensable pour nos équipements de combat. Son rachat par un groupe américain a été validé par le gouvernement. Bonjour Renaud Bellet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'université de Grenoble. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de la Défense. Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
En fait, il faut s'inquiéter si on n'a pas de contrôle sur la production, puisque c'est un équipement essentiel pour fabriquer des équipements de premier rang. La question, c'est de savoir quel type de contrôle on peut avoir.
Quel type de contrôle on peut avoir? Réaction de Bercy lorsque cette information a été dévoilée. Ils disent non, nous avons une sorte de golden share, c'est ce qu'ils appellent, c'est-à-dire une sorte de partage doré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, on peut soit contrôler directement la société, ce qui était traditionnellement l'approche française, soit avoir une action de préférence qui permet de contrôler des décisions stratégiques ou d'accéder à des informations stratégiques. Donc l'entreprise ne pourra pas faire certaines décisions sans en informer le ministère de l'économie et la DGA, le ministère des Armées, pour pouvoir décider s'il est possible ou non. Et ça donne un droit de veto, en fait.
C'est je vous arrête tout de suite, Renaud Bellet. Tout ça, c'est super dans un monde beau et gentil, où tout le monde s'aime. Mais lorsque l'on voit, par exemple, récemment, que le Danemark, qui soudain se dit que son allié de toujours, l'Américain, pourrait devenir non plus un partenaire, voire même peut-être un jour un ennemi, alors qu'il lui a acheté à lui tous ses avions de combat avec une petite clause qui était justement cette fameuse clause à l'inverse du Golden Share, puisque c'était pour les Américains, mais qui est que les Américains ont un contrôle sur l'utilisation de ces avions. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose?
Alors, on est ici dans une situation un peu différente, puisqu'on a un actionnaire américain et non pas l'État américain. Dans le cas du F-35, par exemple, que vous évoquez, l'État américain possède un certain nombre de données classifiées qui ne sont pas accessibles aux clients étrangers. Dans le cas d'un équipement, à partir du moment où il est produit en France et qu'on peut avoir un contrôle dans la stratégie de l'entreprise de la localisation de la production, c'est beaucoup plus fiable que d'avoir simplement un fournisseur qui vient des États-Unis. La question s'était posée par exemple avec Photonis il y a quelques années pour des capteurs optroniques qui permettent de faire de la vision de nuit. Et donc, mais la question de trouver un actionnaire français ou d'un actionnaire étatique est toujours problématique.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas privilégié dans le contexte actuel? Est-ce qu'on ne s'est pas dit, bon, malgré tout, restons français?
Alors, il faut garder en tête que sur un équipement comme le Rafale, par exemple, il y a à peu près 30 000 composants. Donc, il est très difficile de contrôler tous les composants. Même les Américains, en fait, ont des sourcings, un approvisionnement en dehors des États-Unis. Parfois, ils se sont même rendus compte qu'ils avaient beaucoup de pièces chinoises. Et des études, notamment de think tank comme Jovini aux États-Unis, qui montrent qu'il y a encore 20 à 30 % d'équipements chinois dans les productions américaines. Donc la question, c'est comment on contrôle en fait ces approvisionnements pour ne pas être dans une situation de dépendance ou de surprise en cas de...
Donc vous êtes vigilant, mais oui, pas si inquiet.
En fait, il faut avoir une stratégie plutôt qu'un contrôle. Parfois, le contrôle ne permet pas la survie de l'entreprise. C'est le cas de Photonis. Le marché n'était pas assez gros pour pouvoir investir et innover. Donc, il fallait s'internationaliser. C'est un moyen aussi d'être plus résilient, puisqu'on a les meilleurs équipements possibles par rapport aux besoins opérationnels.
Et ça, on n'aurait pas pu le faire avec cette entreprise-là?
Ah, il faut voir les milliers d'entreprises qui sont concernées. On le fait quand c'est vraiment un équipement essentiel et stratégique. Par exemple, tout ce qui est lié à dissuasion est sous contrôle beaucoup plus serré. Mais c'est très coûteux aussi de faire ça pour l'État français.
Donc on n'avait pas les moyens en fait, ça revient toujours à ça.
C'est une question de priorité et une question aussi de stratégie. Donc la question c'est où veut-on mettre l'effort ?
Merci beaucoup, merci Renaud Bellet d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes chercheur à l'Université de Grenoble, spécialiste de ces questions de défense. Il est 7h47 et dans un instant c'est le débat, c'est vendredi. Le débat entre la voix de droite et la voix de gauche. Cécile Duflot à ma gauche, bonjour Cécile. Charles Consigny à ma droite, enfin en réalité c'est l'inverse, mais enfin on a bien compris qu'ils étaient de droite et de gauche. Les consommateurs de drogue sont, je cite, complices des règlements de compte. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a dit hier. Il relance la question de la culpabilisation des usagers. Les chiffres du trafic de drogue ont encore augmenté l'an dernier, plus 8%. Est-ce qu'il faut encore durcir la répression? Vous n'êtes pas du même avis et on écoute vos arguments droite et gauche dans un instant sur RMC, 7h47.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat droite-gauche, mais tout de suite le bonus, Mathieu, avec des artistes américains divisés.
Bad buzz pour la rappeuse Nicki Minaj, qui, en plein dans les polémiques sur la police anti-immigration, dit son soutien à Donald Trump.
Hello guys, I'm
salut, je suis avec mon président préféré, le meilleur de tous les temps, dit-elle face caméra, et Trump, qui est à côté d'elle, qu'elle surnomme Papi Trumpo, qui répond, je suis avec la reine du rap. Bon, en fait, elle est en train d'être naturalisée, hein. Elle n'est pas américaine, elle, et certains y voient une explication. N'empêche, ses fans menacent déjà de jeter ses disques. Alors que dans le même temps, Bruce Springsteen continue de lever la voix contre le président avec une chanson dévoilée hier que vous entendez. Minneapolis, j'entends ta voix. Le boss rend en fait hommage aux manifestants tués par la police fédérale ICE, aux manifestants qui sont encore dans la rue. Il dénonce dans la chanson le roi Trump et ses brutes, hein, je le cite, dans ce nouveau titre sorti hier et qui rappelle un titre, un de ses classiques. Ça s'appelle Streets of Minneapolis.
RMC, Apolline Matin, le débat.
Comme tous les vendredis, la voix de droite et la voix de gauche. D'un côté, Charles Consigny, de l'autre, Cécile Duflot. Bonjour à tous les deux. Le trafic de drogue en hausse de 8% l'an dernier. Les chiffres ont été publiés hier par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron pointe la responsabilité des consommateurs qui sont, je cite, coupables, selon lui, des règlements de compte. Est-ce que le président a raison de culpabiliser, encore une fois, donc, les consommateurs de drogue? Cécile.
Il a complètement tort et c'est complètement inefficace et ça dure depuis 1970. Depuis 1970, on est dans une logique 100% pénalisation. C'est pas scientifique, c'est pas comprendre quelle est la logique de l'addiction, c'est pas efficace et ça contribue à désorganiser la société française et à pas regarder le problème en face.
Charles.
Il se réveille quand même un tout petit peu tard, l'élève Macron. Je veux dire, là, on est en fin d'année. Il me fait penser à un élève qui se met tout à coup à travailler au mois de mai. Il fallait faire quelque chose avant. Je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Cécile. Moi, je constate que notre système, il est bancal, puisque les trafiquants se voient, et c'est normal, opposer une répression féroce, alors que les consommateurs, en réalité, bénéficient d'une impunité complète aujourd'hui en France. Vous pouvez, en France, aujourd'hui, acheter et consommer de la drogue sans risquer quasiment...
Alors, officiellement, vous risquez. Hein. Il y a des sanctions, officiellement.
En pratique, il n'y a rien. Moi, je suis effectivement favorable à des sanctions plus dissuasives, notamment des sanctions financières, mais je pense qu'il ne faut pas que des sanctions financières. Je ne connais pas une personne à qui la drogue ait fait du bien. C'est quand même quelque chose qui soit abruti, soit rend dingue, soit rend dépressif. Donc, la responsabilité de collective, c'est d'essayer d'endiguer ça. Or, on est au contraire sur une explosion de la consommation.
Cécile, en même temps, sans consommateur, il n'y a pas de trafic?
Oui, mais je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Charles. Ah. C'est-à-dire, il dit, la drogue, ça ne fait pas du bien. Et pourtant, depuis que le monde est monde, les humains consomment des produits psychoactifs pour plein de raisons, pour pallier des angoisses, pour ses propriétés psychotropes, pour la créativité. Mais il y a eu des moments avec une répression très féroce des consommateurs, notamment au moment de l'épidémie d'héroïne. On mettait les gens en prison. D'ailleurs, ils avaient des syndromes de manque hyper violents. C'était parfois inhumain à quel point les gens physiquement souffraient. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que c'est méconnaître quelle est la logique qui pousse à la consommation. Et on devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi des médecins, des policiers, des infirmières, des pêcheurs, toute la société française consomme de la drogue. Par ailleurs, on peut quand même faire une grosse différence entre le cannabis, qui est légalisé dans plein de pays, y compris en Allemagne, et d'autres types de drogues.
Pourquoi faut légaliser ?
Ben, à partir du moment où on peut boire de l'alcool, le cannabis c'est plutôt moins dangereux pour la santé que l'alcool. Je voudrais terminer là-dessus. Comment on a enrayé l'épidémie mortelle d'héroïne pour les consommateurs, mais aussi très dangereuse parce que ça rendait très violent, par une forme de légalisation, c'est-à-dire un traitement de substitution délivré sur ordonnance, la méthadone, considéré que les consommateurs qui sont en situation d'addiction, ils sont malades, ils n'ont pas un problème de comportement, ils sont malades et il faut les accompagner et les aider.
Je suis pas d'accord encore une fois. Les villes et les endroits où le cannabis a été légalisé deviennent des espèces de ZAD.
En Allemagne,
où ça sent la weed partout.
L'Allemagne.
Oui, je suis désolé. Les villes. Moi, je suis allé il y a pas très longtemps. J'en ai déjà parlé ici à New York peu après la légalisation. Je suis désolé. Il y a une odeur d'herbe absolument partout
et une espèce à la Défense.
De consommation généralisée. Donc je pense pas que ce soit un horizon souhaitable pour notre jeunesse et ni pour notre pays. Moi je réfute la façon qu'on a de considérer que le cannabis serait beaucoup plus doux, beaucoup moins dangereux. Ça crée des schizophrénies par exemple chez les gens chez qui le problème est latent. Et dans l'ensemble, je suis navré pour nos auditeurs qui fument, mais moi j'ai plutôt observé que ça abrutissait les consommateurs.
Et dans le Var, cette initiative, l'employeur sera averti si un salarié est contrôlé positif. Alors l'employeur de certaines catégories de métiers pour lesquels effectivement la prise de cannabis pourrait avoir des conséquences, puisque ça concerne donc les policiers, les chauffeurs de bus, le personnel soignant. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça vous paraît une bonne chose, Cécile?
Les consommateurs qui consomment aujourd'hui, ils savent 100% que c'est illégal. Ils le savent et ils savent que ça a un effet.
Oui, mais est-ce qu'il faut prévenir?
Juste une petite parenthèse.
Est-ce qu'il faut prévenir? Oui,
le cannabis a un effet et pas forcément positif. Oui, il conduit et il est lié avec des décompensations, notamment chez ceux qui consomment très jeunes. Mais comme on peut pas faire une politique de santé publique, comme on peut pas dire le cannabis à 14 ans, 15 ans, vous vous cramez le cerveau, c'est illégal de le dire aujourd'hui. On peut juste dire ne consommez pas. Mais un joint, une fois tous les 15 jours, c'est pas du tout la même chose. C'est à peu près significatif au fait de boire de l'alcool. Parce qu'aujourd'hui, l'alcool fait beaucoup de les gars, qu'est-ce qu'il fait le procureur? Honnêtement, je pense qu'il fait acte de son impuissance. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va prévenir des employeurs? Outre le fait que ça ne fonctionne pas. Moi, mon objectif, c'est qu'on fasse diminuer la consommation de drogue, diminuer la violence liée au trafic. C'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, la méthode employée ne fonctionne pas. Point ligne.
Est-ce qu'il faut prévenir les patrons, des policiers, des chauffeurs de bus, du personnel soignant, si l'un de leurs salariés consomme de la drogue?
Non. Moi, je considère que
c'est
ça...
C'est la délation?
Oui, enfin en tout cas, je considère que ça relève de la vie privée, malgré tout, et que non, prévenir l'employeur pour accabler encore quelqu'un qui n'est déjà pas dans une situation merveilleuse, s'il ressent le besoin de fumer des joints en rentrant chez lui, je pense pas que ce soit une bonne option, non. Donc j'y suis pas favorable.
Donc on fait quoi? On continue à dire que c'est pas grave ou...
Non,
pas
alors,
du tout.
Non,
ah, mais non. Mais... Moi, je ne dis pas que c'est pas grave. Je dis que c'est un problème et je dis que cette.
Mais c'est un problème de santé.
C'est un problème de société. C'est-à-dire, ça, on doit à la fois avoir une politique de santé publique, une politique de réduction des risques, une politique d'accompagnement auprès des plus jeunes pour faire de la prévention et éviter le passage à la consommation. C'est ce qu'on a fait, notamment avec le tabac. C'est ce qu'on essaye de faire quand les lobbies s'en mêlent pas trop avec l'alcool. Parce qu'il y a des drogues qui sont aujourd'hui légales, de vraies drogues qui rendent dépendants, qui rendent accros. Vous savez, il y a des pneumologues qui soignent des malades du cancer qui fument du tabac en sachant exactement ce que ça produit. Et je termine, et être aussi très résolu contre les trafiquants, notamment avec tous les dispositifs qui vont être mis en place pour lutter contre l'argent de la drogue. Je pense qu'il faut faire les deux en même temps pour être efficace.
Non, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut être résolu avec les trafiquants et on a quand même un trafic de drogue qui explose et maintenant des mafias qui prennent une importance très particulière. Je constate simplement que s'agissant de la consommation d'alcool et de cigarettes, elle diminue énormément en France, et s'agissant de la consommation de cigarettes, elle a diminué plutôt par la coercition, l'augmentation du prix, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, etc. Donc je trouve qu'il ne faut pas être défaitiste sur ce combat.
Merci à tous les deux. Le débat, chaque vendredi, voix de droite, voix de gauche sur RMC. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À la une du journal de 8h, le refus d'obtempérer, c'est en hausse de 11%. Témoignage dès le début du journal, vous l'entendrez. Et puis après le journal, il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Les chiffres de la croissance viennent de tomber pour 2025 et c'est mieux que prévu, plus 0,9%. Il nous l'expliquera dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Bon réveil à tous et très belle journée. C'est vendredi, on est ensemble, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Danjean, bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ils font souvent la une de l'actualité et pour cause, ils ont explosé l'an dernier. Les refus d'obtempérer en hausse de 11% avec souvent des conséquences très graves. Vous entendrez le témoignage d'un policier gravement blessé dans une intervention. Lui n'aurait pas pu aller bien loin. Un client de Peugeot a réussi à faire condamner le constructeur français pour publicité mensongère sur l'autonomie de son véhicule électrique. Et puis si besoin de se garer sur le parking d'un hôpital public, eh bien cela pourrait devenir gratuit. Une proposition de loi a été adoptée hier par l'Assemblée.
Il y a eu un peu plus de 28 000 refus d'obtempérer l'an dernier.
On vous en parle souvent sur RMC car les affaires se multiplient et ça se confirme dans le bilan 2025 de la délinquance publié hier soir par le ministère de l'Intérieur. La hausse est de 11% sur un an et l'année 2026 est bien partie pour battre de nouveaux records. On a encore eu un exemple hier à Avignon avec un adolescent de 14 ans qui a manqué de percuter des agents avant d'être arrêté. Des refus d'obtempérer comme celui-ci, ce policier de la BAC en a vécu plusieurs dans le sud de la France jusqu'à cet accident en 2024. Sa voix a été modifiée pour préserver son anonymat.
On donne le top interpel et en fait le conducteur du deux roues qui est allumé, en fait il me fonce dessus et là il me percute. Je fais un vol plané, j'arrive à m'accrocher à lui. Là il me traîne, je m'éclate vraiment au sol. Lui il continue sa route, pas un regard derrière, rien du tout. Donc comme bien souvent dans les refus d'obtempérer, leur seul objectif, de toute façon, c'est de fuir. J'ai eu pas mal d'arrêts, j'ai eu une opération. Si les condamnations étaient plus sévères, notamment sur les atteintes aux personnes, ils se diraient, ça vaut peut-être pas le coup.
Une autre augmentation, celle du nombre de personnes mises en cause pour usage de stupéfiants, plus 6%. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a commandé hier au gouvernement un plan sur les douanes pour muscler les interventions dans les ports et les aéroports. Il l'a dit à l'occasion de sa troisième réunion à l'Élysée consacrée à la lutte contre le narcotrafic. Un chiffre qui est lui supérieur aux attentes du gouvernement, c'est celui de la croissance dévoilée ce matin par l'INSEE, plus 0,9% sur le début de l'année 2025. On y revient tout de suite après ce journal avec Manu Le Chypre. Il est 8h02 sur RMC et c'est une décision de justice qui pourrait créer un précédent, la condamnation récente de Peugeot par la Cour d'appel de Toulouse pour publicité mensongère. Romain Houg, le constructeur, va devoir rembourser l'un de ses clients car le véhicule électrique qu'il lui a vendu n'a pas tenu ses promesses en matière d'autonomie.
Oui, l'histoire commence en septembre 2019 lorsqu'une entreprise de construction fait l'acquisition d'un Peugeot e-partner pour l'un de ses salariés qui en a besoin pour ses trajets professionnels. 140 km par jour. Peugeot, dans sa documentation technique, indique que le véhicule peut parcourir jusqu'à 170 km par jour. Sur le papier, c'est donc tout à fait adapté, sauf que voilà, quelques mois plus tard, le salarié constate que l'autonomie réelle est bien plus faible. Une expertise est réalisée, le constat est sans appel. Le véhicule présente une autonomie inférieure de 23% à celle présentée par Peugeot. L'entreprise saisit la justice. La Cour d'appel de Toulouse condamne Peugeot pour manquement à son devoir d'information précontractuelle. Les magistrats estiment que la brochure mentionnant une autonomie de jusqu'à 170 km/h sans autre information ne constitue pas une information suffisante. Le constructeur est finalement condamné au remboursement du véhicule et de tous les frais engagés pour les procédures judiciaires. Cette décision pourrait amener les concessionnaires à reconsidérer leur marketing qui cherche parfois à rendre leurs véhicules électriques plus séduisants qu'ils ne le sont en réalité.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Qu'ils soient électriques ou non, les véhicules qui se garent sur les parkings des hôpitaux publics pourraient bientôt ne plus avoir à payer leur stationnement. La proposition de loi validée hier par l'Assemblée prévoit de ne plus faire payer patients et personnel. Les visiteurs, eux, auront droit à 2 heures gratuites. Et même si le texte doit encore passer par le Sénat, il fait déjà beaucoup réagir devant les hôpitaux, notamment à Lyon, Vincent Chevalier.
Après un tour à l'hôpital pour une prise d'information médicale, place à la douloureuse pour Adem.
On est une heure et demie.
Ah ben, 3,35.
Facture moins importante qu'attendue, mais avec la nouvelle loi, ils n'auraient rien payé. Et pour les visiteurs, le texte prévoit la gratuité du parking pendant 2 heures.
S'il y a quelqu'un qui est hospitalisé là, ça serait bien que ça soit gratuit. Ouais.
Un avis partagé par Gilles.
Si on vient de rendre visite, on vient pas de bon cœur, quoi. On sait qu'on est obligé.
Et pour Guy, cette gratuité sous condition vient mettre fin à une injustice.
C'est une bonne chose. Bah, il faut en arriver là. De toute façon, on est racketté un peu de partout, hein, donc le problème, c'est ça. Hein.
Une loi moins bien reçue par d'autres, comme Cédric Lucier, directeur général du groupe hospitalier Nord-Essonne.
C'est une nouvelle inquiétante.
Il y a un an, l'hôpital a fait appel à un opérateur privé pour construire et gérer le parking, un projet à 6 millions d'euros.
Si demain, on nous demande de compenser financièrement, ce sera pour nous l'équivalent de 6 postes d'infirmiers qui devront être supprimés si nous n'avons pas de ressources nouvelles.
Autrement dit, une compensation de l'État prévue par le texte, mais sans montant défini. Le gouvernement s'était d'ailleurs opposé à la loi par crainte de ses conséquences sur les finances publiques.
Donald Trump espère ne pas avoir à frapper l'Iran, mais montre quand même les muscles ce matin en rappelant la puissance financière et militaire des États-Unis après la menace hier de Téhéran de frapper les bases et porte-avions américains en cas d'attaque de la part de Washington. Il est 8h05 et c'est la bonne nouvelle du matin. Il n'y a plus aucun département en vigilance orange au cru. L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont sortis d'affaires, en tout cas en théorie, car en pratique, la pluie continue de tomber sur la Bretagne. On attend 10 à 20 mm supplémentaires aujourd'hui. Martin Lange, vous êtes en direct de Redon à l'est de Vannes pour RMC et la prudence reste de mise ici.
Oui Élise, avec un pic de crue qui était attendu très tôt ce matin. Alors ça n'a pas débordé mais les habitants restent sur le qui-vive. À l'image de Michel, il tient un bar tabac à 2 pas du port.
C'est sûr, on pense à l'année dernière, quoi. On est inquiet. Moi le commerce, j'ai pas été inondé mais commercialement on a été impacté, quoi. On n'avait plus les clients qui pouvaient passer. Bon, on va croiser les doigts.
Les inondations, il y a un an tout juste, hein, qui reste dans toutes les mémoires ici. 500 personnes avaient dû être relogées à Redon et dans sa petite couronne. Alors pour éviter une nouvelle catastrophe, la préfecture et la mairie ont pris toutes les précautions avec notamment des barrières anti-inondations qui ont été montées sur les quais pour les surélever d'une 50 cm. La Croix-Rouge est aussi mobilisée avec 50 places d'hébergement d'urgence. Un dispositif exceptionnel qui devrait être prolongé durant le week-end alors que de nouvelles pluies et des grandes marées sont annoncées en Bretagne.
Martin Lange en direct de Redon pour RMC. Il est 8h07. Allez, on file tout de suite à l'Open d'Australie. Retrouvez Eric Salio, l'envoyé spécial d'RMC pour la première demi-finale homme entre Alcaraz et Zverev. Tout allait bien pour l'Espagnol, mais le vent est peut-être en train de tourner, Eric.
Oui, parce que Carlos Alcaraz est en souffrance physique. Il menait 2-0, 6-4, 7-6. Et puis, il y a eu une attaque de crampe à la fin du 3e set. Il n'a pas pu jouer le tie-break à son meilleur niveau. Donc, Zverev a recollé à 2-1. Alcaraz est mené 2-1 dans la 4e manche. Mais on le voit vraiment en souffrance. Il vient d'avaler, selon moi, une fiole de jus de cornichon. C'est la recette miracle pour lutter contre les crampes. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? C'est la grande question. On est à 3h30 de jeu.
Merci Eric Salio. En Ligue des Champions, c'est à midi que les deux derniers clubs français engagés, Paris et Monaco, connaîtront leurs adversaires en barrage. Et les deux clubs tricolores pourraient bien s'affronter. Tirage au sort à vivre sur RMC. Tout comme celui de la Ligue Europa pour Lyon et pour Lille qui se sont qualifiés hier soir.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
La croissance économique, les chiffres viennent de tomber, c'est pas terrible quand même Emmanuel.
Oui, effectivement, la fin d'année a été un peu décevante, l'activité n'a progressé que de 0,2% au quatrième trimestre. Il faut rappeler que les prévisionnistes s'attendaient à une fourchette entre 0,2 et 0,4, donc on est plutôt dans le bas de la fourchette anticipée. Les entreprises ont poursuivi leur effort d'investissement, mais un peu plus prudemment qu'en début d'année. Elles sont aussi un peu plus méfiantes sur l'emploi, en témoigne l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi publiés hier. On est à plus de 2% hors effet de l'intégration des allocataires du RSA au dernier trimestre. Les ménages ont dépensé un peu plus, mais sans vraiment reprendre le chemin des magasins. Ils ont dépensé plus en énergie, ils ont dépensé plus en transport, mais ils n'ont pas vraiment été dans les boutiques. Même dans l'enseigne préférée des Français qui est Action, eh bien, les ventes ont reculé en fin d'année. Heureusement qu'on a pu compter sur le commerce extérieur, en ligne avec l'amélioration d'ailleurs de la compétitivité du Made in France annoncée par l'Institut Rexecutier.
Il reste quelques secteurs dynamiques.
Oui, alors la fin d'année a été plutôt favorable aux services. Par contre, elle n'a pas été très favorable à l'industrie, dont la production a légèrement baissé, tirée vers le bas par l'automobile notamment. Ça va un petit peu mieux pour la construction, qui s'est plutôt stabilisée. Et ce sont donc les services qui ont tiré l'activité.
Qu'est-ce que ce ralentissement du dernier trimestre 2025 annonce pour 2026?
Alors, c'est là où il est intéressant, parce qu'en fait, pour 2025... Le dernier trimestre, ça n'a pas beaucoup d'impact. En revanche, pourquoi il est fondamental? C'est pour l'élan qu'il transmet à l'année 2026. Donc l'année 2025, elle se termine sur 0,9, on s'y attendait. Et là, bah, disons qu'on est dans les temps de passage intermédiaires du gouvernement pour atteindre les 1% de croissance prévue sur l'année 2026, fondamentale si on veut tenir aussi nos objectifs budgétaires. Mais attention, ce sera quand même pas facile à aller chercher les 1% sur l'année. Ça suppose une accélération de la croissance au premier semestre et tout dépendra en fait de ce que feront les ménages. Est-ce que ils vont enfin baisser la garde du côté de l'épargne pour dépenser plus? Du côté des entreprises, on sait qu'on pourra compter sur elles. Elles sont obligées de toute façon d'investir.
Merci beaucoup Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, il est 8h10 sur RMC. Un mot pour vous dire que nous sommes le 30 janvier et en ce jour, eh bien, c'est 7 mois jour pour jour. Ça fait 7 mois jour pour jour que notre confrère Christophe Glaize est détenu en Algérie. Je voudrais en dire un mot et vous dire le soutien d'RMC à notre confrère. Une soirée a été organisée hier pour réclamer la libération de Christophe Glaize, qui travaille pour SoFoot. RMC s'y associe, évidemment. Aucun journaliste ne devrait être derrière les barreaux pour avoir fait son métier. Soutien total à Christophe Glaize, donc détenu depuis 7 mois en Algérie. Il est 8h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et puis, à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera le candidat de gauche à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire. Juste après, on retrouvera la semaine face à Canteloup. Nicolas Canteloup, c'est tous les jours sur RMC à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Tous les jours.
C'est tous les jours qu'il est avec nous. Salut Arnaud.
Y compris aujourd'hui, le vendredi 67 janvier. Ça n'en finit pas. On a souffert toute cette semaine. En plus, on est crevé. Apolline, elle est malade. Moi, j'ai eu la grippe. Notre directeur, quand il parle de notre plateau, il est saoulé.
Et tout s'écrase sur lui. Voilà.
On a eu une semaine difficile. Alors c'est relâche aujourd'hui. Je propose qu'on parle de sujets légers. On se détente, on va causer amour et gens tout nus. L'Assemblée nationale a voté la fin du devoir conjugal. Oui, alors quand je dis amour et gens tout nus, l'Assemblée nationale, c'est pas eux qui sont tout nus, hein. C'est qu'ils ont voté la fin du devoir conjugal. Vous n'êtes plus obligé de coucher avec votre conjoint quand vous êtes marié. Et c'est là qu'on voit que l'Assemblée est déconnectée du réel des Français. Depuis quand les gens mariés ont encore une activité sexuelle? Non, je veux dire, ils en ont une, mais pas l'un avec l'autre. C'est les voisins qui profitent. Non, mais vous, vous bossez dans les médias, vous devez montrer l'exemple, et puis vous êtes parfait, mais les gens normaux comme nous.
La fête des voisins,
c'est plus sympa comme ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça mignon, hein. Ceci dit, les couples qui couchent encore ensemble quand ils sont mariés depuis 50 ans, ils sont ensemble le matin.
Oh, Robert! On est tout nus! Oui! Aïe, attention, tu as marché sur un de mes testicules. Oh. Fais gaffe, tu as un de tes seins qui trempe dans le café, tu vas te brûler.
Ça a son charme,
c'est mignon. C'est attentionné,
exactement. C'est bien de se réserver des petits moments complices comme ça. Alors en Tanzanie, ils avaient une idée pour aller plus loin que nous. L'État avait diffusé la liste de tous les hommes mariés pour lutter contre l'infidélité.
Non.
Si, ils avaient fait ça.
Un fichier,
on pouvait googler le nom du gars dedans. Et donc en fait, ils ont plutôt lutté contre la fidélité parce que moi, je me suis jamais autant fait draguer depuis que je porte une alliance. Hein, d'ailleurs, je suis dégoûté, hein, évidemment. Si les jeunes célibataires nous écoutent, mettez une fausse alliance, vous allez vivre votre meilleure vie. Alors les députés, eux, ils se sont bien amusés. Les députés, ils ont
quel
parlé
beau message.
Si des jeunes nous écoutent, ça leur apprend la vie. Alors des députés, ils se sont bien amusés cette semaine. Ils ont parlé amour et tout ça. Ils se sont plus amusés que les sénateurs qui, eux, ont rejeté la loi sur l'aide à mourir.
Ah oui, c'est autre chose.
Alors bon, la loi, c'est l'aide à mourir, c'est déjà un sujet très épineux pour les sénateurs. La mort, puisqu'ils sont concernés dans pas longtemps. Et ils privilégient la vie plutôt que la mort. Ils sont opposés à ce qu'on meure assisté. Eux, en tant que sénateurs, ils préfèrent vivre en étant assistés. La droite a voté contre, parce que les Français n'ont pas besoin d'une aide à mourir. Ça suffit, l'assistanat maintenant. Nos grands-parents, ils y arrivaient tout seuls. En plus, quand l'État progresse sur l'aide à mourir, les gens râlent. Hein. Regardez aux États-Unis. La police de Donald Trump a aidé plusieurs personnes à mourir. Tout le monde trouve ça affreux, c'est du deux poids deux mesures. Enfin, je les trouve cruels quand même, les sénateurs, parce qu'ils ont forcément quelqu'un dans leur entourage qui veut mourir, leur famille déjà.
Ouais.
Tu veux que je te raconte ma journée au Sénat? Je peux faire mourir. Faut aider ces gens-là.
François Ruffin, Arnaud a annoncé sa candidature à la présidence de la République et il souhaite être payé au SMIC.
Avec des Marseillaises au SMIC. Voilà, le gars rêve d'être président et rêve d'être payé au SMIC. Bonne nouvelle François, il y a un de tes deux rêves qui va se réaliser. Un SMICard à l'Elysée, ceci dit, c'est pas si mal. Hein, c'est à la bonne franquette, il va recevoir le roi d'Angleterre, il va lui taper dans le dos. Hey Charlie, assieds-toi, je te fais des knackis. Je te laisse des nouilles. En plus, les Anglais sont déjà habitués à mal manger, ça ne changera pas. Non, Ruffin, il va se pointer à Davos en jogging pantoufle avec un pull trouvé chez Emmaüs. C'est pas plus con que les lunettes de Tom Cruise, hein. Ça fera le buzz, tout pareil. Kadhafi, il a dormi dans une tente dans les jardins de l'Elysée. Ben voilà, Ruffin, il va déplier sa tente quechua sur les pelouses de la Maison Blanche. C'est pas plus bête.
C'est
je suis désolé,
bête.
C'est pas plus bête.
Alain Duhamel sort un livre, ça s'appelle Les politiques, portraits et croquis.
Oui. Portraits et croquis. Une galerie de portraits au vitriol sur les politiques actuelles. Il m'a dit « Oh, jeune chroniqueur, voici mon dernier grimoire. Des portraits sans concession. Jordan Bardella, il est nul. Darmanin, il est nul. Boris Vallo, il est nul. Une bonne tête de gland, même, si tu veux, mon ami. Bayrou, il pue.
Non.
Mélenchon, ses dents, on dirait Mariupol, mais sans la neige. Mathilde Panot, grosse... Bon, ça va, là, on va pas tout dévoiler maintenant. Il faut qu'il reste du suspense pour ceux qui vont acheter le bouquin. Enfin, voilà, c'est un retraité comme un autre. Il fait des listes de gens qu'il aime pas. C'est sympa qu'il sorte un livre. C'est sympa d'avoir des nouvelles d'Alain Duhamel. Parce que depuis qu'il a pris sa retraite en juin dernier, vous vous souvenez, en fait, il avait pris sa retraite en juin dernier. Voilà, depuis 12 émissions par semaine sur BFM, des éditos, des analyses 7 jours sur 7 et un 137e bouquin et bientôt un podcast intitulé « Tous des cons, abonnez-vous ». Et il lance aussi son OnlyFans coquin. Il est partout pour nous expliquer ce qu'il a fait. « J'ai interviewé Mitterrand et Chirac ». Et Charlemagne, et Aménophis IV, et Jeanne d'Arc. La vraie, hein, Jeanne la Pucelle. D'ailleurs, après notre rendez-vous, on l'appelait juste Jeanne.
Oh non.
La Vierge Marie, pareil. Quelle légende, quand même. Quelle légende. Allez, à lundi, bon week-end.
Arnaud Demange, qu'on retrouve aussi en podcast à tout moment, bien sûr. Et il sera en tournée, notre Arnaud Demange national. En France, partout, à Rennes, ailleurs, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, un spectacle RMC. Il est 8h20 au 32-16, c'est Bruno. Bruno qui nous appelle, qui est un ancien gendarme. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bruno, vous vouliez parler aussi de la drogue. Vous avez été confronté à ces questions-là quand vous étiez au travail?
Oui, tout à fait. Quand j'étais au travail, tout à fait. Mais là, ce qui m'interpelle le plus, c'est que j'ai une fille qui travaille en EHPAD.
Oui.
Et elle avait des collègues qui venaient, qui consommaient du stupéfiant directement sur place, quoi.
Oui. Ah, dans l'EHPAD, vous voulez dire, au boulot?
Voilà, dans l'EHPAD, au boulot.
Donc vous faites partie de ceux, je précise effectivement ce qui se passe, dans le Var, une décision a été prise pour dénoncer en quelque sorte, alerter en tout cas l'employeur dans certains métiers, comme par exemple la police ou les conducteurs de bus ou les métiers de la santé, si l'un de leurs salariés est consommateur régulier de drogue. C'est ce que vous dites, voilà. Au fond, vous estimez, vous Bruno, qu'il faudrait dénoncer?
Bah, tout à fait. Enfin, eux, ils ont fermenté à l'employeur, et ils ont demandé des rapports, donc elles ont fait des rapports et tout, en expliquant, et que c'était limite après derrière du mauvais traitement pour les résidents, voilà. Que c'était limite du mauvais traitement, donc elles ont fait remonter. La direction, ils ont simplement, ils l'ont licencié, terminé, quoi. Ouais. Alors que peut-être que, bon, la licencier, oui, certainement, mais derrière, le signaler, faire remonter, non pas pour qu'il y ait une répression...
Il n'y a pas forcément besoin du licenciement, mais au moins qu'on lui dise, bah, tu fais pas ça sur le site au boulot, quoi.
Ah, mais ses collègues, les collègues lui disaient, mais elle s'en foutait, quoi. Hein, donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut bien agir.
Ouais. Donc, vous, en tout cas, vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faut effectivement alerter.
Et donc, c'est pour ça qu'elles ont alerté la direction. La direction l'a simplement licenciée, alors que peut-être que si on avait essayé... Enfin, je dis pas que ça marche à tous les coups. Moi, j'ai été confronté de nombreuses fois à tout ça, où justement, des personnes ont été condamnées à des injonctions thérapeutiques.
Oui.
Ça n'a pas tout le temps fonctionné, mais au moins, si sur... je sais pas exactement le pourcentage, mais sur 10, on arrive à en sauver un, ce serait déjà pas mal.
Bah oui, ce serait déjà pas mal, effectivement. Cette question aussi d'accompagner, mais aussi de protéger. La question, c'est aussi la question de protéger, évidemment, les usagers. C'est-à-dire là, on parlait des résidents. Quand on est chauffeur de bus, par exemple, cette question, elle peut aussi avoir un enjeu sur le bon fonctionnement ou pas du service. C'est-à-dire, si on fume du cannabis et qu'on est chauffeur de bus, évidemment, ça peut avoir des conséquences. Merci infiniment, Bruno, d'être passé par le 32-16. Bruno, donc, gendarme retraité dans l'Allier. Il est 8h20. 22 sur RMC, 23 maintenant. Dans un instant, mon invité, c'est Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire, c'est le candidat à la succession d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, candidat de la gauche unie hors LFI. Voilà comment il le dit. Hier soir, peut-être certains d'entre vous ont regardé Cache Investigation. Vous l'avez peut-être vu sur la question des dérives et des violences, y compris sexuelles, contre les enfants dans le périscolaire à Paris. Il dit, Emmanuel Grégoire, que ça lui a fait honte. Ses réactions et ses explications dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC, Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabillet.
La dernière étape pour en finir avec le marathon budgétaire. Sébastien Lecornu va déclencher ce matin un dernier 49-3 sur le texte, ce qui devrait l'exposer à de nouvelles motions de censure d'une partie de la gauche et du RN. Si elles sont rejetées, le budget sera définitivement adopté. Alex Préti était un agitateur, peut-être un insurgé aux yeux de Donald Trump. Une nouvelle vidéo lui fait perdre beaucoup de crédit, écrit le président américain. Vidéo dans laquelle on voit cet infirmier de 37 ans se rebeller contre les agents de l'ICE 11 jours avant sa mort à Minneapolis. La météo, une journée encore très perturbée avec beaucoup de pluie sur une large moitié ouest avec beaucoup de vent. Les températures en hausse cet après-midi, 7 à Strasbourg, 11 à Paris, Brest et Limoges, jusqu'à 16 degrés à Perpignan.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
RMC, Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Il est 8h29. Bonjour Emmanuel Grégoire.
Bonjour.
Vous êtes candidat à la mairie de Paris. Vous êtes député socialiste de Paris. Vous êtes le candidat de la liste qui s'appelle Gauche Unie, avec des alliés de gauche, sauf LFI. On va évidemment dans un instant voir pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on vote pour vous. Mais d'abord, cette question, vous l'avez sans doute regardée hier, Cache Investigation, nos confrères de France 2 qui ont consacré un de leurs numéros au scandale dans le périscolaire. Et au scandale dans le périscolaire, notamment à Paris, nouveau volet de cette enquête qui montre qu'il y a des dysfonctionnements majeurs. Certains de vos adversaires parlent même d'un système qui ne fonctionne pas. Comment vous réagissez ce matin ?
D'abord, les images que j'ai vues sont scandaleuses. Je n'ai pas découvert tout hier soir, puisque depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'affaires sont remontées. Je me suis fait deux observations. La première, c'est chaque cas individuel qui remonte démontre des manquements graves de procédures mal appliquées, de manquements dans les procédures et, j'allais dire, traduit une sorte d'omerta systémique. Je le redis parce que c'est un sujet qui me touche. Quand on voit l'accumulation des affaires Bétaram, faire Stanislas, ça faire dans les écoles publiques à Paris, mais aussi, vous le savez, ailleurs, ça traduit deux choses. La première, c'est que l'enfance est le monde du silence et que s'y déploient des comportements inacceptables qui vont de violences parfois verbales et comportementales graves, mais jusqu'au cas évidemment les plus extrêmes. Et je pense en particulier à la pédocriminalité. Je pense que la prise de conscience doit être générale. J'y prendrai ma part évidemment de façon absolu comme maire de Paris, il faut revoir tout de fond en comble. Il faut revoir le recueil de la parole de l'enfant, il faut revoir toutes les procédures, il faut faire du contrôle externe de la bonne application de ces procédures, il faut recruter des gens qui soient plus fidélisés, mieux rémunérés, il faut également réorganiser les choses pour éviter que des risques, entre guillemets, soient aussi manifestes dans la prise en charge.
Vous avez parlé d'une omerta systémique. Évidemment, vous dites, on va tout changer. Vous dites aussi que vous êtes particulièrement troublé, et on le sait, vous l'avez dit, vous avez vous-même révélé avoir été victime enfant. J'entends la gravité de ce que vous dites, mais vous avez sans doute vu que l'un de vos adjoints, qui était adjoint à la petite enfance, au périscolaire d'Anne Hidalgo, avec laquelle vous travaillez depuis des années, Patrick Bloch, a presque constaté, semble-t-il, que malgré tout ce que vous nous dites sur les signalements qui sont pris au sérieux, plusieurs signalements n'ont pas été suivis de fait.
Je l'ai découvert, évidemment. Je l'ai découvert y compris comme député, puisque un certain nombre de ces cas, et notamment très graves, ont eu lieu dans ma circonscription dans les derniers mois qui viennent de s'écouler et qui traduisent, je le redis, des dysfonctionnements multiples dans lesquels s'engagent d'ailleurs des responsabilités individuelles forte. Nous avons d'abord pris la conscience que c'était maltraité. Je vous avoue que moi j'ai été 6 ans premier adjoint à la ville, et donc j'en prends ma part de responsabilité, parce que quand on est maire, on est responsable de tout, y compris de ce qui ne nous remonte pas, parce que le fait que ça ne remonte pas est un dysfonctionnement en soi. Et donc on va absolument tout changer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà présenté
j'ai quand même
plusieurs choses.
Une question plus précise sur Patrick Bloch, est-ce qu'il fait partie de votre équipe?
Non, Patrick ne sera plus candidat. Nous allons changer les équipes qui s'occupent
il
de
l'était.
Tout cela. Il ne l'était pas.
Il ne l'était pas. Non. Donc vous aviez déjà un doute?
Non, moi je ne fais pas de cas individuels.
Non,
il n'est pas candidat.
Que
n'est
vous
pas
avez
sur...
dit, il y a des responsabilités
pas,
individuelles. Quand il y a une responsabilité individuelle, à un moment, il faut l'assumer.
Il n'est pas candidat sur notre liste, mais quand un système dysfonctionne, il ne faut pas accabler une individualité. Chacun et le collectif a une responsabilité, et je ne suis pas du genre à me défausser.
Vous avez parlé de Bétaram, vous avez parlé de Stanislas, il s'agit là d'établissements privés. En l'occurrence, si on regarde ce qui se passe chez les gens qui dépendent de la mairie de Paris, il y a plus de 50 personnes qui travaillaient auprès d'enfants, salariés de la mairie de Paris, qui ont été mis en cause.
Oui, alors sur plusieurs années et deux sur une grosse dizaine de milliers de professionnels concernés. Parce que je veux aussi insister sur un point. Aussi scandaleux que sont toutes ces affaires, je veux aussi protéger l'ensemble des professionnels qui sont engagés avec passion, sérieux et rigueur auprès de nos enfants. Et je le dis comme père. J'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, mais évidemment, ces questions-là, je me les suis posées comme père et je me les repose encore aujourd'hui comme père.
Qu'est-ce que vous dites aux parents à Paris qui vont douter désormais?
D'abord, qu'ils ont raison de douter et que ça fait partie aussi pour lever l'omerta systémique. Douter et écouter les enfants est un élément essentiel et je suis bien placé pour le savoir. Et la deuxième chose, c'est que nous allons tout changer parce que en matière de protection des enfants, nous avons une obligation de résultat. Une obligation de résultat qui passera par des moyens augmentés, par des recrutements
toutes les
renforcés.
Mesures que vous prendriez,
oui,
mais une en particulier sur laquelle je voudrais quand même comprendre ce que vous allez changer, c'est le recrutement.
Oui.
Puisque l'on constate, et d'ailleurs les journalistes de différents médias l'ont constaté en faisant eux-mêmes des propositions d'embauche qui ont été prises récemment, vérification n'ait été faite.
Par exemple, c'est totalement anormal.
Mais
c'est démontré que c'est totalement contraire aux règles.
C'est-à-dire qu'ils répondent à une annonce pour travailler auprès d'enfants et il n'y a pratiquement pas de vérification qui soit faite.
C'est scandaleux. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui est prévu. Le cadre de contrôle est celui qui a été placé depuis maintenant plus de 10 ans, qui est celui du contrôle obligatoire du fichier des infractions sexuelles pour vérifier qu'il n'y a pas d'antécédent, ce qui ne garantit pas d'ailleurs de protéger absolument les risques.
Bien sûr, enfin, ce serait au moins un garde-fou.
Mais c'est typiquement une procédure qui était obligatoire et qui n'était pas bien appliquée. Et donc, ça veut dire que le contrôle n'est pas suffisant. Et pour vous me demandez quelle est la mesure la plus importante. La mesure la plus importante, c'est que qu'est-ce qui provoque cela? C'est la multiplication du nombre d'intervenants, la difficulté à les fidéliser et l'organisation un peu baroque de la semaine, notamment autour de ces 2 fois 1h30 de temps périscolaire. Les mardis et vendredis. À Paris exclusivement d'ailleurs, parce que par ailleurs c'est un pataquès national puisque plus personne n'a exactement les mêmes rythmes.
La question globalement, parce que vous êtes aussi député, hein, oui. Vous avez aussi une responsabilité nationale. Est-ce que c'était pas produire une usine à dysfonctionnement que d'avoir fait des espèces de temps périscolaires comme un puzzle la semaine de nos enfants?
Je ne le crois pas.
Parce que forcément vous vous retrouvez à devoir embaucher des gens qui ne peuvent pas travailler à plein temps.
Je ne le crois pas, d'abord parce que c'est le problème du périscolaire en soi de tout temps. quand on fait des surveillances le matin, le midi, le soir.
Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai eu des enfants aux États-Unis. Le périscolaire, c'est tous les jours de 15h à 18h. C'est quand même beaucoup plus stable comme emploi.
Enfin, le système américain, c'est dans l'école où vous étiez.
Beaucoup plus stable comme emploi. J'étais dans une école publique américaine à Washington.
Il ne dépend pas d'un temps global. D'abord, c'est pas le législateur qui décide de ça, c'est le gouvernement. Et le gouvernement a joué deux mauvais coups là-dessus. D'abord, la semaine de 4 jours et demi est devenue optionnelle. Et ensuite, ils ont arrêté les cofinancements. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on organise une convention des temps de l'enfant à Paris. Pourquoi ? Il y a eu la convention nationale sur les temps de l'enfant qui recommande de maintenir les 5 jours pour l'organisation du temps scolaire. Et donc, par contre, de nous questionner sur la façon dont c'est organisé, parce que le temps fragmenté fait qu'il y a trop d'intervenants et donc il y a plus de risques.
Emmanuel Grégoire, je le disais, vous êtes candidat à la mairie de Paris. Vous êtes donné dans certains sondages à égalité avec Rachida Dati au second tour des intentions de vote. Pourquoi voter pour vous ?
Parce que nous portons un projet de gauche, social et écologique, qui vise plusieurs choses. D'abord, nous défendons l'idée que Paris est à vous. Paris est à tout le monde et chacun a le droit d'y vivre. Et donc, c'est des politiques publiques qui sont là pour venir lutter contre les effets spéculatifs, ségrégationnistes, qui sont ceux du marché. Et donc, c'est évidemment l'axe d'abord du logement, c'est deuxièmement l'axe des services, avec notamment une mesure forte, par exemple, parmi de nombreuses mesures, mais celle-là me tient beaucoup à cœur, c'est les 2 heures de garde par semaine pour les mamans solo parisiennes. Paris, c'est une ville magnifique, extraordinaire, mais qui peut être dure quand on a pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de temps parfois. Et donc, on veut développer des politiques publiques qui protègent les plus vulnérables, qui protègent les plus fragiles, qui permettent aux travailleurs de première ligne de continuer à habiter à Paris. C'est pour ça qu'on continuera à faire du logement social, qu'on continuera à se battre pour la transition écologique, de se battre pour les transports publics, etc. C'est un projet de gauche, c'est une vision de la ville et de l'avenir et du vivre ensemble. Et on entend faire entendre, présenter
vos adversaires ont l'air presque d'être plutôt du côté de la gauche. Quand on entend les mots de Sophia Chikirou à votre encontre, et d'ailleurs, elle a été une des premières à réagir à Cache Investigation hier en demandant même une organisation. Elle parle d'un système, mais tous les jours, elle dit de vous, et d'ailleurs, c'était une de ses motivations au départ, que sa candidature vise à ce qu'il n'y ait plus de socialistes à la tête de Paris.
Elle l'a dit exactement avec ces mots-là.
Avec ces mots-là, ça veut dire que c'est presque aujourd'hui votre premier adversaire.
En tout cas, que manifestement, elle préfère que ce soit Rachida Dati la maire que moi, parce que ça se jouera entre moi et Rachida Dati. Voilà. Et donc, quand Sophia Chikirou et ceux qui la soutiennent théorisent cela, c'est-à-dire que pour l'avenir de Paris, pour l'avenir des classes populaires de Paris, pour l'avenir des quartiers populaires de Paris, il est mieux d'avoir Rachida Dati comme maire qu'Emmanuel Grégoire, je pense qu'on dénonce assez de façon évidente le cynisme et l'opportunisme d'une candidature qui ne sert pas pour les gens.
Vous nous redites donc qu'il n'y aura aucune alliance avec LFI.
Je vous le confirme.
Vous avez entendu les mots. Et
y compris avec les mots que vous venez de rappeler. Enfin, comment voudrais-je m'associer avec quelqu'un qui n'a pas d'autre objectif que de nous faire perdre ?
Mais peut-être qu'à la fin quand même, vous y viendrez, non ? Mais enfin, si je vous dis ça, c'est parce que j'en écoute le secrétaire général de votre parti, le secrétaire général du Parti Socialiste, Pierre Jouvet, lundi, qui a affirmé que la direction n'imposerait pas de stratégie à ses candidats, globalement, pas de stratégie d'alliance, mais lorsqu'il est interrogé sur est-ce qu'il y aura des accords avec LFI, alors, il dit, dans la plupart des cas, non, mais peut-être dans certains endroits. C'est votre parti.
Oui, très bien. Enfin, en l'occurrence, nous sommes maîtres localement de nos stratégies. Et j'imagine que Pierre Jouvet, j'avais pas cette déclaration en tête, parle des endroits où il y a un risque de victoire de l'extrême droite. Et moi, je ne juge pas ce qui se passe ailleurs. À Paris, les choses sont claires.
Certains de vos alliés aujourd'hui considèrent que Rachida Dati, c'est l'extrême droite.
À bien des égards, elle cède aux sirènes de l'extrême droite, y compris en ne fermant pas la porte à Sarah Knafaud de façon claire et d'une certaine manière ce qui m'est demandé à moi lui est plus mollement demandé à elle, et pourtant elle a bénéficié de nombreuses heures d'exposition.
J'imaginais bien que vous alliez m'en parler, Emmanuel Grégoire, mais vous êtes là ce matin.
C'est très gentil. D'abord, je suis très heureux d'être avec vous, mais je veux quand même souligner qu'il y a une disproportion d'exposition. On a fait 4 heures d'antenne dans le groupe dans la semaine, et c'est bien heureux. Je le dis pour moi.
BFM TV et RMC respectent scrupuleusement les règles de l'ARCOM. Nous sommes
les règles de l'ARCOM, c'est que le candidat qui est en tête des sondages et 20 minutes d'antenne et celle qui est loin derrière et 4 heures. Ça interroge effectivement sur les critères de l'ARCOM, mais je connais ces règles.
Vous connaissez ces règles et vous reconnaissez qu'on les respecte parfaitement.
En tout cas, j'ai saisi l'ARCOM pour le vérifier.
Vous pourrez vérifier, on n'a rien à cacher.
Je sais bien. Ce que je veux dire, c'est que Rachida Dati, évidemment, qu'elle est aujourd'hui dans une course à l'échalote avec Sarah Knafo, qu'elle ne ferme pas de façon claire l'hypothèse d'une alliance et qu'elle met en menace ce qui est l'essence même de l'histoire de Paris, c'est le fait que c'est un terrain qui a accueilli des réfugiés et des gens qui ont fui le monde entier, qui ont contribué de façon extraordinaire à la vitalité économique, culturelle, politique de notre ville. C'est quelqu'un qui va voir les problèmes, et je les connais, les problèmes. Je les connais, il y en a de nombreux à régler. Évidemment, le sujet de la très grande précarité et mon engagement pour lutter contre le sans-abrisme, mais qui font d'une certaine manière des fausses promesses qui sont celles d'évacuer les gens ailleurs.
Malgré tout, parce qu'on est vraiment dans une question très politique et que Paris en est évidemment la figure de proue. Quand vous dites qu'elle est en train, en tout cas, de faire ce jeu-là de l'extrême droite, quand vos deux alliés, David Belliard et Yann Brossia, régulièrement disent que Rachida Dati, c'est, on vous met un signe égal entre Rachida Dati et l'extrême droite, est-ce que ce n'est pas poser les jalons, le jour venu, de dire, face à la menace de l'extrême droite Rachida Dati, finalement, il faut faire alliance avec LFI.
Non, l'objectif, c'est l'objectif, c'est de souligner l'ambiguïté de Rachida Dati. L'ambiguïté de Rachida Dati, ce qui nous a profondément choqués, notamment qui nous a évidemment incité à analyser ça comme une espèce de glissement à l'extrême droite, c'est les vidéos horrible quand elle va auprès de migrants qui sont sous des tentes et qu'elle leur dit « je vais vous faire dégager ». Mais dégager où ? Dégager ailleurs qu'à Paris ?
C'est-à-dire mais les vous pousser dans les quartiers populaires
à l'extérieur.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Les mettre à l'abri, je le sais. Je connais parfaitement la situation.
Parce qu'ils sont là depuis des années, pas forcément les mêmes.
D'abord, c'est la compétence de l'État. Mais je ne m'en exonère pas. Il n'y aura pas de tentes dans ma ville, dans les rues. Parce que je considère que c'est la mise en scène de notre propre impuissance.
Mais c'est ce que disait Anne Hidalgo.
Ça engage la mienne
et les temps
également.
Sont là.
Ça engage la mienne également. Donc voilà. Mais moi, j'étais pas maire. Donc demain, j'espère l'être. Quand je serai maire, il n'y aura plus de tente dans l'espace public. Je le dis dans un souci d'humanité, mais aussi dans un souci de régulation de l'espace public et de mise en scène, d'une certaine manière, exploitée à outrance par l'extrême droite, d'une forme de déclinisme ou de grand remplacement qui n'existe pas. Nous parlons de quelques centaines de réfugiés, en particulier ce statut des jeunes en recours. C'est-à-dire ceux qui sont dans un nid. Pourquoi ils sont dans la rue ? Parce qu'ils ne sont ni mineurs, ni majeurs, ni bénéficiaires des prises en charge pour les mineurs, ni admissibles à l'hébergement d'urgence, compte tenu y compris de sa saturation. Il y a 3500 SDF. On verra, il y a eu la semaine dernière la nuit de la solidarité qui nous permettra d'avoir une vision actualisée
du nombre. Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui nous promettait qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue ?
C'est un échec majeur d'Emmanuel Macron. Je l'ai
interpellé. Vous arriverez à le faire.
Nous l'avons interpellé. Nous ouvrirons des centres et je le ferai avec les réseaux associatifs. Et quand on est politique, on n'est pas forcé, évidemment, d'être cru sur parole. Enfin, il y a une présomption de crédibilité sur les projets sur lesquels on s'engage. Et après, on en est comptable. Emmanuel Macron en est comptable et j'en serai comptable demain si je manquais à ma parole. Et je l'ai dit de façon raisonnable. Je n'ai pas de baguette magique. Je ne peux pas le faire du jour au lendemain. Et donc, l'objectif numéro un, c'est pas d'enfants à la rue à l'hiver 2026. Et donc, c'est quelques centaines de places à mobiliser dans un partage de responsabilité qui est ubuesque à la française de qui est responsable de quoi. Moi, je vais vous dire, à Paris, je suis responsable de tout. De tout. Et je ne m'exonère de rien, ni en disant c'est pas moi, c'est la préfecture de région, c'est la préfecture de police, c'est la région. Nous travaillerons ensemble pour résoudre les problèmes, quels qu'ils soient.
Une question sur les combats de vos alliés. Vous avez dit moi jamais avec LFI, par exemple. Vous avez vu sans doute que vos deux alliés, David Belliard et Yann Brossa, l'un de leurs premiers déplacements a été d'aller soutenir la librairie Violette, qui est une librairie qui se définit comme féministe, lesbien, LGBTQIA+, qui avait fait l'objet d'une perquisition pour avoir mis en vitrine un livre pour enfants dans lequel Israël est en quelque sorte rayé de la carte. Ça s'appelle From the River to the Sea. Ce livre avait été interdit d'importation par la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse. Cette librairie vient d'être sélectionnée pour continuer, semble-t-il, à percevoir des subventions de la mairie de Paris dans le cadre d'un investissement de 482 000 euros à 40 librairies indépendante. Vous continuez donc à subventionner cette librairie.
Oui, et je l'assume totalement parce que la façon dont vous le racontez est juste, mais pas tout à fait la bonne genèse. Ce livre est un scandale. Et moi, j'ai aucune ambiguïté là-dessus. Ce livre est un scandale. Je l'ai pas eu dans les mains moi-même. Donc, vous voyez, par ailleurs, beaucoup de gens disent des choses, etc. J'ai essayé de l'avoir, le voir.
Eux-mêmes le reconnaissent, hein.
Oui, mais
donc, je comprends pas qu'on mette un doute. C'est-à-dire que, ils le disent. Ils le vendent même de manière bénévole. Les libraires l'ont dit. Elles ont choisi de vendre ce livre de façon bénévole, sans percevoir aucune marge. Donc, vos subventions.
Elles ne le vendent plus.
Cette librairie,
elles ne le vendent plus.
Parce qu'elles n'en ont plus de stock.
Et deuxième chose, ce n'est pas vrai de dire qu'il avait été interdit. Il ne l'a pas été pendant très longtemps et il ne l'a été que le lendemain de la perquisition policière. Moi, je connais l'affaire très en détail.
J'imagine.
Et donc, rien n'est simple dans la vie. Moi, ce que je sais, c'est que quand il y a des flics qui commencent à aller dans les librairies pour juger de ce qui est bon ou pas et faire des perquisitions sur la base d'éléments qui ne sont pas objectifs. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'avis de la commission qui nationalement est chargée de dire est-ce que ce livre ou pas est autorisé. Moi, j'ai un principe simple, s'il y a du droit, on respecte le droit. Et en l'occurrence, la perquisition policière m'a semblé disproportionnée au regard de ce qui a été fait. Deuxièmement, ce livre est un scandale, et moi je n'ai aucun état d'âme à dire que quand des livres entretiennent l'ambiguïté sur, entre guillemets, le droit à exister d'Israël, j'ai aucun problème. Quand, par contre, on a le droit de faire des livres qui défendent les droits des Palestiniens, parce que c'est aussi ma position de défendre l'État d'Israël et de défendre le droit des Palestiniens à avoir un État. Moi, je vais vous dire, ce sont des sujets qui sont faits pour lancer de l'essence au milieu du débat public.
Non, mais je vous donne ma position, je sais que c'est pas la vôtre. Se rendent volontairement, donc en y allant,
ils sont allés sous-dessus un principe auquel je suis très attaché et qui restera le mien, c'est que la police qui perquisitionne des librairies sans base légale objective, en fouillant tous les cartons, etc., ça me fait peur. Ça me fait peur. Et donc, en l'occurrence, ils avaient raison d'y être. Le maire du 11e, François Vauglin, y était également. J'y étais pas moi-même. Mais
en tout cas, je veux soutenir cette...
Oui, je soutiens les librairies indépendantes et la seule raison pour laquelle je ne les soutiendrai pas, c'est si elles diffusent des livres interdits. Et ça, je n'aurai pas la main qui tremble.
Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris donc, et député socialiste de Paris. Merci d'avoir répondu à mes questions. 8h48 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, Nicolas Canteloup, une semaine très politique, Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann ou encore Nicolas Sarkozy sont passés par la semaine face à Canteloup.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, Raphaël Glucksmann était dans le face-à-face. Il est resté face à Canteloup. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour, quel plaisir d'être là.
Alors, vous allez pas le regretter parce que Ségolène Royal, figurez-vous, arrive. Elle voulait absolument vous dire un mot.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Oui.
Bonjour Raphaël.
Oui,
j'ai trouvé votre interview formidable sur Apolline. Oui. Non, franchement, ce sera un bonheur qu'il soit élu en 2027. Mm. Mais bien sûr, il ne pourra pas embrasser cette fonction suprême sans une première dame qui soit à la hauteur.
Mm. Hein, vous l'avez compris. Ah oui. Hein, une proposition peut-être.
Bah oui, qui connaissent parfaitement les rouages du pouvoir. Hein. Et puis quand on voit comment ça évolue au Groenland, hein, je pense même qu'il serait opportun, hein, le mot est juste, opportun d'avoir une première dame qui était ambassadrice des pôles. Hein. Il n'y en a pas 36,
mais Madame Royal, Raphaël Glucksmann est en couple.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va arrêter un président de gauche.
Oui.
Hein. Un vrai président qui se dit de gauche, ça doit savoir tromper sa femme, pardon. Oh, hein.
Hein, voilà, vous pensez à quelqu'un?
Oui, non, pas
oui,
du tout.
Oui, mon petit. Voilà.
Hein. Mais il n'y a pas que lui, vous savez, Mitterrand, regardez.
Ah, oui,
il a même poussé le bouchon très loin, il avait même une fille cachée. Hein, bon, on n'en est pas là, en tout cas, voilà. Que Raphaël sache que j'ai un scooter.
Ah oui.
Je connais des bonnes boulangeries. Je suis matinal. Si vous aimez les croissants, j'ai un peu de temps, je peux livrer.
Merci beaucoup, Madame Royal. Sinon, la gauche unie a annoncé donc que la primaire pour désigner son candidat à la présidentielle aura lieu le 11 octobre prochain.
Oui. Enfin, aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est pas de trouver des candidats, hein. Ouais. C'est plutôt de trouver des électeurs.
Raphaël Glucksmann est donc toujours avec nous. Et Monsieur Glucksmann, au Parlement européen, vous aviez voté pour que l'accord de libre-échange avec le Mercosur soit suspendu. Pourquoi ?
Ah, chère Apolline de Malherbe, est-ce que vous vous rendez compte que l'Argentine, le Brésil veulent exporter chez nous des tonnes de steaks qui ne sont même pas
en soja.
Ni en toffee, ni en petit épeautre labellisé Moulin de Paris. Alors, je ne vous parle même pas des millions de bouteilles de vin non bio qui sont, vont envahir les rayons de nos épiceries équitables.
Ah oui,
moi, attends, j'accorde. Moi, je soutiens les agriculteurs. Moi, je... arrêtez, ce n'est pas drôle. Je suis né avec ça, c'est déjà dur.
Il se demande s'il doit rester là, alors, Mixman.
Il y a tout RMC qui m'a dit, mais non, t'inquiète, c'est facile, c'est safe. Eh ben, bravo.
Moi, je soutiens. Rien ne m'arrêtera, Pauline Malherbe. Ni personne. Il n'y a pas de censure. Les agriculteurs français font un métier difficile, dur. Je le vois chaque jour. Mon voisin fait pousser du basilic dans une jardinière sous le balcon de notre immeuble du 9e. C'est compliqué. Je le vois en bas de chez nous. Il y a un peu de... 10e, pardon.
C'est encore plus bobo.
Oui.
Faut cibler, là.
Oui, mais tu ne sais pas que tu vas déménager.
Apparemment.
En bas de chez nous, dans le 10e, 9e. Oui, parce que je multiplie les propriétés immobilières. Il y a un petit potager. Putain, je vais pas finir ma chronique. Il y a un petit potager.
Il n'emploie pas ce mot.
Oui, pardon.
J'ai des enfants. Non, punaise, bien les élever, moi.
Pardon, punaise. Oui, non, mais quand je suis excédé, des fois, j'ai laissé, des fois,
en bas de chez nous. Les citoyens.
Oui, entre la rue La Paillette et le boulevard Magenta, eh bien, que d'efforts pour arriver à faire pousser trois tomates cerises et finir cette chronique.
C'est un peu poussif, là.
Je ne
veux pas juger le travail des gens.
Vous allez y arriver. Nicolas Sarkozy, Monsieur Sarkozy, bonjour. Votre épouse, Carla Bruni, est soupçonnée d'avoir utilisé un téléphone secret pour une opération visant à vous innocenter dans un dossier, le dossier des financements libyens.
Quelle indignité, Madame Pujadas.
Oui, Madame Pujadas.
Carla n'a jamais eu de téléphone secret. Qui vous a dit ça? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que Carla, elle n'avait pas de téléphone secret. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que son téléphone secret, en plus, c'était pas le sien, c'était celui de Sylvie Bismuth. Voilà. Donc, et puis, il n'y a pas de secret. Carla, je sais ce que je la connais. C'est simplement qu'au téléphone, vous savez comment elle est comme dans la vraie vie. Elle murmure. Elle parle doucement. Elle parle tellement doucement qu'on peut avoir l'impression qu'elle a quelque chose à cacher, alors que pas du tout.
Au-delà de ça, vous avez quand même engagé une procédure pour ne plus porter votre bracelet électronique.
Mais même Pujadas. Le bracelet électronique, je supporte très bien. Si j'en veux plus, c'est pas pour moi, c'est pour la France.
Ah oui.
Parce que, est-ce que vous croyez, quand on, franchement, avec la dette qu'on a, est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est utile de dépenser des milliers d'euros pour poursuivre mes déplacements, alors que pour savoir où je suis, ben les juges, il suffit simplement qu'ils dépensent quelques euros pour acheter Gala, Voici ou Paris Max.
Voilà.
C'est tellement simple.
Charles nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline, aujourd'hui dans les Grandes Gueules, nous parlerons d'Alex Pretty, cet homme abattu dans le Minnesota par la police américaine avec Willy. Willy qui vient justement de passer son permis de chasse et qui en plus connaît très bien l'Amérique puisqu'il est lui-même passionné de musique country.
Ah bah oui,
et puis nous reviendrons également sur les wagons sans enfants avec Jean-Jérôme qui est bien placé pour en parler puisqu'il est passionné de trains électrique. Et il adore y jouer tout seul dans le calme pendant que justement ses enfants ne sont pas là et qu'ils sont à l'école.
Ah oui,
alors, on en parlait avec Gabriel Attal. Faut-il interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans? Mais ce sera intéressant d'entendre le témoignage de Sylviane qui ne comprend pas que ce sujet soit mis à l'honneur puisqu'elle habite la Creuse et qu'il n'y a ni internet ni jeunes. Voilà, ce matin encore, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC.